Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On refait le match spécial débrief, débriefing, équipe de France de football, les Bleus. Face à la Hongrie, résultat un but partout, événement que vous avez pu suivre intégralement sur RTL entre 14h30 et 15h. Les Bleus qui ne sont pas immédiatement qualifiés dans le même groupe depuis 30 minutes. Le Portugal a repris les commandements du groupe F puisque le Portugal mène en Allemagne face à l'Allemagne sur le score d'un but à zéro et tout est fonction aussi de ce résultat. Dans un instant, nous prendrons la direction de Munich. On fait le match jusqu'à 20h. 20h-23h, RTL Foot spécial Euro 2020. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match spécial bleu, spécial débrief en studio et avec moi Florian Gazan. Bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
David Aiello, bonsoir.
Bonsoir mon cher Christian.
Stéphane Powels, bonsoir.
Bonsoir.
Et Gilles Verdès, bonsoir.
Bonsoir.
Avant de retourner à Budapest, l'autre match du groupe F, Allemagne-Portugal, Munich, Vincent Serrano sur place, envoyé spécial de RTL en Bavière. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Et le Portugal mène face à l'Allemagne par un but à zéro.
Contre le cours du jeu, vraiment les Allemands qui avaient le pied sur le ballon, qui arrivaient à presser les Portugais dans leur moitié de terrain et qui se sont fait surprendre à la 15e minute de jeu. Centre de Bernardo Silva au second poteau, reprise de la poitrine de Diogo Jota qui peut ensuite décaler pour tromper Manuel Neuer. Cristiano Ronaldo n'a plus qu'à ouvrir le pied et ouvrir le score. C'est vraiment une masterclass de celui qui est pour l'instant le meilleur buteur de la compétition, qui fait une démonstration, une succession de gestes techniques pour faire douter ces Allemands. 33e minute de jeu, 1-0 pour le Portugal en Allemagne.
Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL, RTL Foot à Munich. Intervention dès qu'il le souhaite, antenne ouverte bien évidemment pour un match important à la fois pour les champions d'Europe en titre, pour les Allemands, pour l'équipe de France, pour le classement du groupe F et pour les positions à l'issue de cette soirée et peut-être aussi et même sûrement à l'issue de la troisième journée. Classement général provisoire, l'équipe du Portugal passe en tête, leader 6 points, devant la France 4 points, la Hongrie 1 point, l'Allemagne toujours 0 point. On rappelle que les deux premiers sont automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale et que les meilleurs...
Les quatre meilleurs troisièmes
sont qualifiés. Merci. Philippe Sanfourche est toujours avec nous à Budapest. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir Christian, bonsoir à toutes et à tous.
On vous disait bonjour avec Eric Silvestro, Giovanni Castaldi tout à l'heure à 14h30 et le coup d'envoi à 15h. Presque bonsoir maintenant. Avant de vous laisser préparer un joli menu pour RTL Foot à partir de 20h, vous êtes toujours dans le stade, toujours à Budapest, Philippe Sanfourche. Il y aura plein de questions débat avec nos chroniqueurs, évidemment, dans ce studio. Il y en a une que je vous pose tout de suite. Un but partout, on rappelle le score. Ce sont les Hongrois qui ont ouvert ce résultat, ce tableau d'affichage. Ce sont les Français, grâce à Griezmann, qui ont égalisé. Ça n'a pas été parfait. C'est un coup de chaud pour les Bleus. Faut-il s'inquiéter? Les Bleus en souffrance. Faut-il s'inquiéter, Philippe Sanfourche?
Il est un petit peu tôt pour s'inquiéter, mais en tout cas, on peut quand même poser des questions. Ce qu'on pouvait redouter est arrivé, en fait. Tout ce qu'on pouvait redouter est arrivé, c'est-à-dire la décompression mentale après avoir laissé beaucoup de jus à Munich pour cet énorme match qu'ils ont parfaitement déroulé à Munich et cette victoire contre l'Allemagne. Ils ne le diront pas, mais il est évident qu'il y a eu une décompression et que ça se sent sur l'entame de match. Si on ajoute à cela effectivement des conditions de jeu qui étaient rudes, un adversaire qui jouait un match exceptionnel dans tous les sens du terme, et puis cette chaleur et puis ce retour
et l'égalisation allemande sur un centre de jeu Joachim Ilich au second poteau, reprise comme plus tôt dans le match par Gossens qui rentre dans le tas, le ballon arrive dans les pieds de Kai Havertz qui l'a plus qu'à ouvrir le pied et tromper Rui Patricio. Les Allemands se relancent dans cette compétition. 35e minute de jeu. Un partout entre les Allemands et les Portugais.
Et au classement général provisoire, les Français et les Portugais ont le même nombre de points désormais.
C'est chaud.
Goal average pour le Portugal favorable, je crois.
Avantage aux Portugais, évidemment, à la différence de but. Et l'Allemagne, donc, qui débloque son compteur, qui passe de 0 à 1 point. Mais le match est loin d'être terminé. C'est très, très chaud. Philippe Sanfourche, retour à Budapest.
Oui, donc les questions, vous allez les poser. Évidemment, on peut se questionner sur cette offensive des tricolore, sur ce trio qui pour l'instant ne parvient pas à répondre à toutes les exigences qu'on pourrait avoir par rapport au talent individuel de chacun, même si les occasions elles ont été là, hein, notamment en première période. Griezmann et Benzema ont deux énormes occasions. Alors c'est clair que Benzema, ça va être le débat, c'est une évidence, à un moment ou un autre, plus les matchs vont s'enchaîner s'il ne marque pas. On a envie de dire qu'il fait quasiment tout bien, sauf dans les 10-15 derniers mètres. C'est-à-dire que il y a une dimension mentale par rapport à son retour et à la pression qui se met forcément sur le dernier geste face au but. Et là, il a une occasion. Elle est pas hyper simple, mais on a envie de se dire qu'avec le Real, celle-là, il la cadre, quoi. Il y a quelque chose dans la tête qui fait que forcément, il va se poser des questions. Maintenant, la rentrée en jeu d'Olivier Giroud, elle démontre aussi le poids des ans et le fait que, je veux dire, ça n'a pas été un miracle. L'entrée d'Olivier Giroud dans ces conditions, on a vu pourquoi c'est un joueur qui a de moins en moins de temps de jeu en club. Je pense que pour l'instant, l'interrogation, elle est pas vraiment posée de manière sérieuse. On peut pas se dire il faut que Giroud reprenne le poste de titulaire. À mon sens, hein, sur ce que l'on voit pour l'instant, il faut vraiment, vraiment insister avec Karim Benzema.
Alors dans ce studio à Paris, je vois certains chroniqueurs de l'inné de la tête. Ce sera le débat, hein, jusqu'à 20h bien évidemment. On va vous laisser tranquille, Philippe, mais effectivement, il y aura plein de questions. Vous les avez évoquées. Et faut-il s'inquiéter de cette équipe de France? Ou plutôt, si on veut être positif, comment corriger les erreurs? Pourquoi Deschamps adopte le même schéma contre la Hongrie, a priori moins armé que contre l'Allemagne, dont le jeu est de posséder le ballon? Donc pourquoi continuer à jouer aussi bas? Comment expliquer le manque d'inspiration offensive? Le trio magique est-il un trio critique? 14 tirs, 3 ou 4 cadrés seulement. Benzema, Mbappé, Griezmann, qu'est-ce qui cloche? On posera la question. Pourquoi les Bleus n'ont-ils pas pu bonifier leur temps fort? On n'avait pas les jambes, disait après le match Didier Deschamps, qu'on va entendre dans un instant. Philippe, tu l'as évoqué, la dépression peut-être après la perf contre l'Allemagne, est-ce que c'est une explication? Griezmann qui est au four et au moulin, mais trop accaparé aux tâches défensives malgré son but, est-ce qu'il est dans son rôle vraiment au risque d'abandonner tout son jus offensif? La chaleur, le public, est-ce que ce sont des faux fuyants? L'équipe de France, loin d'être en danger, mais que faudra-t-il changer pour jouer mercredi contre le Portugal? Ce sont des questions qu'on va poser à Gazan, à Powell,
à
Verdez.
Il y a du boulot.
Dernière chose, Philippe Sanfourche, tu as vu en conférence de presse le sélectionneur Didier Deschamps.
Oui, effectivement, Didier Deschamps qui a donné quelques pistes d'explication sur ce qui s'est passé. Juste une ou deux informations factuelles sur le fait qu'effectivement, il avait trouvé que des joueurs comme Pogba, Rabiot ou d'autres étaient un petit peu en deçà physiquement et qu'ils avaient beaucoup souffert de la chaleur, manifestement peut-être plus que d'autres avec des gabarits importants. Et information aussi concernant Ousmane Dembélé, avec la confirmation, comme on l'a vu, qu'il était sorti suite à une douleur derrière le genou. Il a pris un coup et ensuite sur un centre, il a senti une douleur, donc ils n'ont voulu prendre absolument aucun risque et Ousmane Dembélé est sorti. Et donc vous le disiez, Didier Deschamps qui admet que les conditions de jeu, à savoir l'horaire, la température, l'ambiance dans le stade, ont eu une incidence sur la rencontre. Je vous propose de l'écouter.
Non. Deuxième but, Munich.
Et le deuxième but allemand, il est signé Joshua Kimmich, qui s'est retrouvé lui aussi tout seul devant Rui Patricio. Pas difficile de la mettre dans le fond, de faire trembler les filets. Avec cette action allemande, c'est de l'orgueil, un sursaut d'orgueil pour les Allemands qui mènent maintenant au score, 38e minute de jeu, et Joshua Kimmich qui permet aux Allemands de prendre l'avantage sur des Portugais complètement étouffés par cette présence allemande dans leur moitié de terrain. Joshua Kimmich qui permet aux Allemands de se relancer dans cette compétition. 39e minute de jeu, 40e maintenant. 2-1 pour les Allemands chez eux à Munich.
Classement général provisoire, la France désormais en tête, 4 points.
On est très allemand ce soir.
Le Portugal, 3 points. Et les Allemands, 3 points également. La Hongrie ferme la marche avec un seul point. Didier Deschamps annoncé par Philippe Sanfourche au micro RTL de Philippe Sanfourche en conférence de presse.
Au-delà du stade de plein qui a été un atout formidable pour cette équipe de Hongrie qui a fait le match de sa vie. Voilà, le scénario du match évidemment les a incités à avoir encore plus d'énergie. L'adaptation physiologique et psychologique à cet horaire et ajouter une température très élevée a eu plus d'impact sur nous que sur l'adversaire. Mais malgré tout, on a une première mi-temps où on a les occasions. Évidemment, on n'a pas eu le réalisme. Et eux, sur une occasion, ils mènent à la mi-temps. Donc après, oui, ils gagnent du temps, ils défendent. On a eu le mérite de revenir au score dans des matchs comme ça. Je suis pas heureux du résultat, mais il faut se satisfaire par moment. On a eu énormément de frappes, peu cadrées, un poteau. haut. Donc, malgré tout, dans ces matchs-là, et c'est pas manqué d'exigence, on l'a pas perdu. Ça nous fait un point de plus qui vient de s'additionner aux trois premiers, donc qui nous laisse l'opportunité d'avoir les cartes en main sur le troisième match.
Le sélectionneur de l'équipe de France, il parle du troisième match, sera la semaine prochaine, mercredi prochain à 21h. Et toujours à Budapest. Merci beaucoup Philippe, on te retrouvera avec Nicolas Georgerot, Julien Fautra à partir de 20h dans RTL Foot, le plaisir partagé. Une page de publicité et on entre dans le vif des débats dont on refait le match. À tout de suite.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
On fait le match et en studio avec Florian Gazan, Stéphane Powels, Gilles Verdez et David Aiello, toujours 2-1 pour les Allemands face au Portugal. Et cet après-midi donc messieurs, et c'était sur l'antenne de RTL, l'équipe de France a été accrochée 1-0 face à la Hongrie, ouverture du score hongroise et égalisation de Griezmann. Question qui a été posée à Philippe Sanfourche et que désormais je vous pose, coup de chaud pour les Bleus de Deschamps, l'équipe de France a été en souffrance contre cette équipe hongroise, faut-il s'inquiéter ou si on veut être positif, comment corriger les erreurs?
Pour moi, il ne faut pas s'inquiéter. J'ai bien aimé le discours de Didier Deschamps. Alors, il le dit clairement, il y a des points d'amélioration, mais ce qu'il donne surtout, c'est une analyse froide du contenu du match. Et le contenu du match, c'est que l'équipe de France a 7 occasions nettes de but. Alors certes, au bout du compte, il n'y a qu'un seul but, et c'est ça, pour moi, le principal point noir. Mais si on regarde sur le contenu du match, pour moi, il n'y a pas de signaux d'alerte, y compris sur l'animation offensive. Enfin, voilà, moi, je ne suis pas catastrophé par la prestation de l'équipe de France ce soir.
Il y a deux thématiques qui retiennent l'attention. C'est quand même, on va y venir longuement, l'inefficacité offensive et puis d'une certaine façon, parce qu'un tournoi c'est 7 matchs, il en reste 6, maintenant 5, c'est aussi la condition physique.
Ouais, après ce qu'ils vont avoir pendant un mois, peut-être déjà qu'ils vont commencer à s'habituer à ces conditions physiques là, parce que c'est vrai qu'on finalement on est dans les premières chaleurs. Et puis ce qu'il va y avoir à chaque fois, déjà ils vont pas jouer à chaque fois à 15h, ça Didier Deschamps a insisté, il a même je pense adressé un petit tacle quand même à l'UEFA en disant que ça, on voyait bien que de jouer des matchs à 15h, c'était pas l'idéal. Les Français vont pas jouer tous leurs matchs à 15h. Donc, et puis, encore une fois, ils vont s'habituer à ça. Donc, je pense que c'est pareil. En plus, pour moi, la chaleur, c'est à la marge. Bien sûr, ils ont souffert, mais c'est pas ce qui explique le manque d'efficacité des Bleus devant le but.
Les Hongrois, ils ont pas joué à 18h. Il n'y a pas de jet lag. Ils étaient à 15h aussi.
C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est à la marge.
La chaleur, c'était la marge.
Non, mais la chaleur, il y a quelque chose qui est clair, c'est que cette chaleur, oui, le public aussi, parce que mine de rien, quand même 60 000 personnes qui ont poussé les Hongrois du début à la fin, ça joue. Des Hongrois, évidemment, qui jouent contre les champions du monde, donc le match de leur vie. Donc voilà, on s'est retrouvé. En fait, l'équipe de France, elle est faible avec les faibles et fort avec les forts.
Je suis pas inquiet, mais cet argument de la chaleur ou du fait de jouer devant un public adverse qui aurait impacté sur la performance des Bleus, alors là, ça me laisse abasourdi. C'est-à-dire que maintenant, s'il fait chaud et qu'on joue devant des spectateurs, on est en difficulté. Donc pour moi, là, c'est de la diplomatie, du langage diplomatique que Deschamps a inculqué aux Bleus dans le vestiaire en leur disant, on invoque la chaleur, le public adverse.
Il ne met pas ça en avant non plus.
Excusez-moi. Tous les Bleus mettent ça en avant.
Antoine
Griezmann, c'est ce qu'il met en avant.
Ah oui, tous. Donc c'est
écoutez, est-ce qu'on a Antoine Griezmann? Je m'intéresse à Damien Béchiot, réalisation de On fait le match. Antoine Griezmann, qui a évoqué dans son intervention également, et c'était au micro de nos confrères de BeIN, la chaleur et le fait qu'il y avait du bruit. Antoine Griezmann.
Match difficile avec le public. Voilà, on a perdu nos habitudes avec le stade plein. On ne s'entendait pas. Terrain sec, il faisait lourd. Super chaud même. Voilà, on le savait avant et on s'est fait prendre sur un contre. Voilà, après devant, on n'a pas su se trouver. Je crois qu'on a eu deux ou trois occasions en première mi-temps. Là, on n'a pas su les mettre au fond. Et voilà, tu payes cash. Hein, c'est l'euro en face à des grandes nations, des grands joueurs. Et tu vois que même face à la Hongrie, c'est dur. Mais je sais qu'on a l'équipe pour y arriver. J'ai confiance en tout le groupe, ceux qui ont commencé et ceux qui sont sur le banc.
Alors, chaleur publique sont sans doute des éléments de langage, mais c'est un écran de Stéphane Powels.
Non, mais c'est marrant parce qu'on est souvent beaucoup plus critique avec son équipe nationale que pour les équipes nationales des autres. Et puis, comme je ne suis pas de ce pays, ben moi, je trouve que cette équipe de France, je suis désolé, mais elle se crée 5 énormes occasions en un quart d'heure en première mi-temps. Enfin, en tout cas, entre la 10e et 25e. Je vais terminer. Je vais dire, c'est à ce moment-là, parce qu'il y a aussi Mbappé qui rate sa tête. Hein. Pour moi, il peut mieux faire. Il y a Benzema. D'accord, mais enfin bon, là on parle de match de haut niveau. En tout cas, si tu en mets deux, c'est 2-0 et c'est plus le même match. Alors ça, on vient dire avec des si, on met Paris en bouteille. Mais par contre, ce qui est certain.
Vous seriez champion du monde, surtout avec des si.
Mais ce qui ça commence la bassesse, mais j'ai l'habitude. Je n'agis même plus. Et vous voyez, j'avais envie d'être gentil, maintenant je vais commencer à être méchant, puisque vous attrapez encore une fois le boulard, Florian Gazan. Non, mais plus sérieusement. je trouve qu'il faut pas tout n'est pas acheté.
C'est quand même un partout contre la Hongrie. Hein. Alors, on a l'impression qu'on a gagné le match.
Si vous avez regardé, Gilles, j'ai pas fini. Si on regarde le match de ces mêmes Hongrois contre les Portugais, ils ont mis 82 minutes avant de pouvoir marquer les Portugais. Les Hongrois, c'était leur jeu. Et quand on vient sur cette histoire de public et de chaleur, c'est un ensemble de choses qui fait effectivement dans l'ensemble de cette journée, 15 heures. Là, moi, je pense qu'il y a eu des lacunes. Il y a eu des petites lacunes pour les Français, mais tout n'est pas acheté. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est deux fois un but sur deux erreurs individuelles. Une erreur du défenseur français et le but des Français, c'est un cadeau aussi d'une relance qui
Hongrois.
Des Hongrois. Donc,
ouais, mais est-ce qu'il faut les Allemands, c'est Hummels. Donc, à un moment donné.
Mais est-ce qu'il faut être si dur que cela avec les Français? Je ne pense pas.
Pas dur, mais il faut quand même prendre conscience d'une contre-performance footballistique.
C'est la mi-temps à l'Allianz Arena. 2-1 pour les Allemands. Et qui se sont fait quelques frayeurs quand même avec cette ouverture du score de Cristiano Ronaldo à la 15e minute de jeu. Les Portugais qui ont profité de leur seule frappe cadrée de la première mi-temps. Ils étaient jusqu'alors complètement asphyxiés par le jeu allemand dans leur moitié de terrain. Des Allemands qui ont pris le temps de poser le jeu, de centrer à droite, à gauche et de marquer à deux reprises dans d'immenses cafouillages dans la surface de réparation. L'occasion pour moi de vous dire que l'UEFA crédite le deuxième but allemand à Rafael Guerreiro contre son camp. 2-1 pour les Allemands qui se relancent dans la compétition.
Merci Vincent, qui se relance évidemment dans la compétition avec 3 points à hauteur du Portugal, la France leader du groupe F. Tout cela n'est que provisoire. Allez, il reste 2 minutes avant une prochaine page de publicité qui a été interrompue. Gilles Verdez.
Ce qui nous guette avec ce statut d'archi-favori, pour moi, c'est la suffisance. Donc je pense qu'il y a des choses à rectifier. Je ne suis pas inquiet pour la suite si on rectifie des choses. Et là, il y a des insuffisances individuelles criantes, on va en parler, défensives notamment, offensives. Et puis effectivement, il y a des lacunes physiques qui, moi, me paraissent problématiques.
Gilles, t'as fait un match de malade contre des Allemands et tu joues quelques jours après.
Mais dans ces cas-là, tu fais tourner. T'as quand même un groupe, t'as 26 D'accord. joueurs. T'as 26 D'accord. joueurs, tu peux faire tourner.
Mais il n'y avait pas de
après,
avait
c'est
pas
le choix, c'est le choix du sélectionneur de remettre le
match. Après, on parle de lacunes physiques. On peut-être. Termine le match très bien. Enfin, j'en ai pas non plus. On a du mal à rentrer dans le match. Mais enfin, sur
on
la
termine mieux que les Hongrois qui, eux, terminent rincés.
Exactement. Donc, quand on parle de lacunes physiques, on a eu du mal à s'adapter un petit peu à la chaleur, mais on termine très bien.
Maintenant, comme Florent Gazan est bien chambré, je lui explique les Belges étaient aussi menés 0-1, mais ils ont gagné 2-1. Voilà, ça c'était pour répondre un petit peu à mon ami Florian.
Et on va aller dans le détail des décisions, des choix tactiques et des errements défensifs défensifs parfois aussi, et du milieu de terrain. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à voir et à revoir. Dans l'immédiat publicité, 18h50, on refait le match et nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
On refait le match sur RTL. Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
On fait le match jusqu'à 20h, je le disais il y a un instant. On fait le match avec Stéphane Powels, Florian Gazan, David Aiello et Gilles Verdez. 20h, 23h, toute l'équipe d'Éric Silvestro, Giovanni Castaldi, je pense également à Quentin Vasselin, Baptiste Durieux, pour une belle soirée de football avec la suite du débrief équipe de France, le débrief évidemment de Allemagne-Portugal et puis aussi un match à ne pas manquer. Pologne-Espagne.
Ah oui.
Les Espagnols.
Terriblement important.
Très grand.
Et les Polonais, encore plus, ils peuvent sortir ce soir de l'Euro.
Les Polonais, bon, d'accord, mais l'Espagne, quand même.
Il y a Robert Lewandowski, excusez-moi.
alors, avant de rentrer vraiment poste par poste, ligne par ligne, j'ai presque d'ailleurs envie de vous demander, mais finalement, qui a été bon, à part Griezmann, au sein de cette équipe de France?
Mbappé a fait son match, quand même, Christian, franchement.
Bah oui, il est dangereux, il provoque, sur l'égalisation, c'est lui qui fait
les gars, pendant 30 minutes, on l'a plus vu du tout. Bah, il a croulé à un moment avec toute l'équipe.
Bon. Moi, je voudrais revenir quand même sur ce coup de chaud.
Il a l'immunité,
au sens propre comme au sens figuré. Coup de chaud, une équipe de France en souffrance. Je ne sais plus combien la Hongrie est classée.
Mais en souffrance, Christian, je vous trouve dur quand vous dites l'équipe de France en souffrance. Encore une fois, ils ont 7 occasions de but dans le match. Je parle d'occasions nettes.
Vous savez
donc,
qu'à un moment donné,
37e. Mais je sais bien, non, mais c'est pour ça que.
37e, la Hongrie.
Ce ne sont pas les Harlem Globetrotters.
Mais je sais bien, Christian, qu'on pointe le fait que l'équipe de France était terriblement inefficace. Ça, je suis d'accord. Mais là, j'ai l'impression que d'un seul coup, il y a une semaine, on était champion d'Europe et on avait quasiment il fallait les trophées
nul.
Et là on fait un match nul est correct,
pas d'amalgame, je veux dire, qui a annoncé que l'équipe de France allait être champion d'Europe?
Les joueurs aussi qui nous ont annoncé qu'ils avaient la meilleure équipe du monde, la meilleure attaque du monde. Mais moi, sur le contenu, encore une fois, elle a pas été en souffrance, cette équipe. Elle était en souffrance un quart d'heure si vous voulez au début du match, mais ensuite on a beaucoup d'occasions. Griezmann a une occasion en or dès la 13e minute.
Il va falloir quand même qu'on aille jusqu'à 20h et qu'on aille vraiment pour
mais si on y va tout de suite, comme l'attaque, Mbappé, ça vous a plu?
Non. Bah, c'était, en tout cas, c'est pas catastrophique.
Benzema, ça vous a plu?
Ah bah non, là, il a raté son match, on peut le dire. On a le droit de dire que Benzema a raté son match, mais il va falloir aussi parler de Didier Deschamps.
J'ai pas fini, attendez.
Allez-y.
Griezmann, il marque très bien, il fait un boulot monumental.
Est-ce qu'il vendange aussi la première occasion?
Oui, mais est-ce que les tâches défensives qu'il accomplit sont pas au détriment de ce qu'il devrait apporter?
Ça, c'est son jeu, c'est lui, ça. C'est,
enfin, est-ce que c'est pas au détriment de ce qu'il devrait apporter?
Je pense pas.
Offensivement, le milieu de terrain, Rabiot vous a plu?
Non, fatigué.
Non. Cramé.
Pogba vous a plu?
Non, fatigué. Un bon contre l'Allemagne.
N'Golo Kanté vous a plu?
Moins bon.
Moi, j'ai trouvé quand même. Vous êtes sévère avec N'Golo Kanté. Alors, c'est pas le N'Golo.
J'ai pas fini, il y a la défense.
Pardon, bah, N'Golo était bien.
Varane, Kimpembe, on va aller plus vite, on va aller prendre deux par deux.
Kimpembe, oui.
Ouais, Varane, non. Moins serein.
Kimpembe, c'est quand même. Il est aussi indirectement à l'origine
de. Si on parle de son match en entier.
Ah, oui, moi, j'insiste sur des erreurs qui causent un but et que l'équipe.
Non, mais c'est pas lui l'erreur du but, Christian. L'erreur, c'est Pavard.
Il y a Pavard, il y a un mauvais contrôle de Kimpembe, il y a Varane qui rattrape pas la
situation. Il y a Kanté qui rattrape pas non plus aussi. Vous allez pas nous faire.
Vous êtes sévère avec Kimpembe. Je suis pas un fan. Vous êtes sévère, je trouve qu'il a fait un bon match.
Mais je suis obligé d'être sévère parce que là, il y a un consensus qui se dégage.
Non.
Si vous voulez qu'on décompte,
Rabiot, 20 minutes, je le sors, moi.
Les latéraux.
Pavard, calamiteux. Non, mais Pavard, il faut sortir. Merci, au revoir. Pavard, faut arrêter.
Non, mais Pavard, c'est une frappe contre l'Argentine et sinon, il n'a pas sa place en
bleu. Pas le niveau.
Digne a plutôt été correct.
Il est intermittent, correct.
Et Loris s'est interposé une ou deux fois. Alors, ça fait combien de
Vous avez oublié un élément, Christian, c'est Didier Deschamps, parce que j'aimerais quand même qu'on en parle sur ce match. Moi, je trouve que c'est pas, l'approche n'est pas exceptionnelle. Il y a des choses à dire, notamment sur Benzema. Je pense que Didier Deschamps aussi, il faut quand même aussi être capable de le critiquer sur ce match.
Alors, pourquoi jouer aussi bas, comme contre l'Allemagne qui présentait.
Qui fait chaud.
L'Allemagne, c'est l'Allemagne. Possession de balle, on le savait. Jouer bas, ça peut être aussi une tactique, et c'est la tactique choisie par Didier Deschamps. Pourquoi jouer de façon aussi basse et donc prudente face à la Hongrie?
Moins là, c'est moins une tactique que le fait que les 10 premières minutes ont été très difficiles. On a été bousculé dans les duels, donc on a été agressé physiquement dans le bon sens du terme par les Hongrois. Donc du coup, après, petit à petit, on a repris le dessus. Mais moi, je suis pas d'accord du tout avec David sur ce bilan plus ou moins satisfaisant.
Je parle du contenu.
Ben oui, mais excusez-moi, mais 1-1 contre la Hongrie avec des insuffisances dans toutes les lignes. Ben oui, mais des insuffisances dans toutes les lignes. Avec des latéraux pas bons, un milieu qui était exceptionnel la dernière fois contre l'Allemagne et qui là est en déliquescence, et une attaque qui ne se trouve pas. Donc on peut pas se satisfaire de ça.
Mais ils ont cette occasion. Donc pour une attaque qui se trouve pas, si cette occasion ils se trouvent pas, ils ont été.
Non, mais arrêtez,
ils les mettent pas au fond.
Arrêtez avec les occasions.
Non, parce que quand on analyse un match, on regarde le contenu. Donc encore une fois, ils ont été nuls au niveau du réalisme. Ça, c'est un fait. Mais les occasions, elles sont là, on les a inventées.
Je vous assure, arrêtez avec les occasions. À un moment donné, il faudra les transformer.
Mais c'est ce que je dis. Mais elles ont été là, les occasions. Un match. Qu'est-ce qui se passe si on fait un match sans aucune occasion? Vous allez dire quoi?
Mais je suis d'accord avec vous.
C'est pas vrai.
Mais quand on a la meilleure équipe ou la meilleure attaque du monde, c'est juste les occasions doivent se transformer.
C'est ce que je dis.
Oui, mais alors justement, je voudrais revenir sur un point par rapport à ce que j'ai dit de Deschamps. Moi, je comprends pas. Évidemment, on met Mbappé, Benzema, Griezmann. C'est génial sur le papier. Mais Benzema, il arrive à l'arrache parce que Martial se blesse. Donc, du coup, il n'y a aucun travail. Il y a un moment donné, quand même, le foot, c'est un sport collectif. Et ça, c'est la faute de Deschamps. Si l'idée, c'était d'intégrer Benzema, il fallait l'intégrer au mois de mars, bien avant, pas à l'arrache, parce que ce pauvre Benzema, bah, il n'a pas l'habitude de jouer avec les gars, et le football aussi devant, c'est des automatismes. Non, et là, il n'y en a aucun.
Moi, sur Benzema, je vais être plus mesuré. Je pense qu'il doit avoir quelque part, psychologiquement chez lui, un souci, parce qu'il se retrouve deux fois, d'abord son pénalty, ici, cette phase-là, au Real, il l'a mis 100 fois dedans. Et donc, je pense qu'à un moment, il y a pour un joueur de tel talent, il y a cette espèce de peur. Je pense que ça n'a rien à voir avec Didier Deschamps.
Justement, il fallait l'intégrer avant.
Alors, il fallait l'intégrer avant. Ou alors, je vais plus loin, et ça, je vais faire hurler. Moi, je le sors avant. C'est à partir du moment où tu vois que le mec, il n'y arrive pas, qu'il n'est pas dans un grand jour. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu Philippe Sanfourche qui était très sévère avec Olivier Giroud en disant mais comment on peut juger Giroud aujourd'hui en 10 minutes quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué.
Non,
quoi.
Ce qu'il dit, c'est juste que dans ces conditions-là, c'était peut-être encore plus difficile pour lui de faire davantage que ça. Mais parce qu'on l'a pas beaucoup vu non plus.
Là où je suis d'accord, c'est que Benzema devient un sujet footballistique. Avant, c'était dans la tête. Bah non, on le savait pas. On savait pas qu'au bout de deux matchs, il aurait pas marqué. C'était le sauveur de l'équipe de France. Et maintenant, ça devient une question.
Faut-il continuer
à aligner? Exactement. Faut-il continuer à aligner Benzema? Voilà la question.
Bien sûr.
Eh bien, on essaie de répondre après les informations de 19h, si vous le voulez bien. Faut-il continuer d'aligner Benzema? On continuera sur ce thème du manque d'inspiration offensif. Le trio magique deviendrait-il trio critique? Et puis, on se posera toutes ces questions sur le plan offensif. Mais je voudrais vraiment qu'on revienne également sur un milieu de terrain, moi, qui m'a fait peur.
Rabiot, je le sors à la mi-temps. Va t'asseoir. Ouais. Il est cramé. Tu le vois, après 20 minutes dans les duels, il y va déjà pas.
Allez, je sais pas. La publicité, ça n'a pas l'air d'être la vie de David Aiello. La publicité, l'information de 19h. Et l'avocat d'Alain.
David, il a l'avocat des gens.
Il y en a un quand même ce soir, parce que dis donc.
C'est la vie des Bleus. On fait le match.
RTL. On refait le match.
Il est 19h. Les informations, Yann Boucherie, bonsoir Yann.
Bonsoir à tous, alerte aux orages parfois violents et accompagné de grêles sur une grande moitié ouest de la France. Une tornade a frappé cet après-midi la localité de Saint-Nicolas-de-Bourgueil en Indre-et-Loire. Le haut du clocher de l'église est tombé sur l'édifice, la toiture de la salle des fêtes s'est envolée, de nombreuses cheminées se sont effondrées et beaucoup d'arbres de la commune se sont couchés sous les rafales. 51 départements du nord au Lot-et-Garonne sont désormais en vigilance orange. La dépression a touché l'Île-de-France en début de soirée avec tonnerre et éclairs, elle va continuer à se décaler au cours de la nuit. On la retrouvera demain sur la moitié est avec encore beaucoup de virulence. Éviter l'enlisement, les forces de l'ordre ont lancé peu après 17h une opération d'évacuation du site de Redon en Ille-et-Vilaine où se tenait depuis hier soir une rave party illégale. Au moins 25 quarts de gendarmes mobiles et de CRS étaient positionnés aux abords du principal accès à la zone, appuyés par un hélicoptère. Ils ont utilisé des gaz lacrymogènes pour déloger les 500 récalcitrants. Hier soir, 1500 jeunes s'étaient en effet réunis dans ce champ en hommage à Steve Maya Canisso, décédé à Nantes en 2019 après une chute dans la Loire lors de la fête de la musique. De violents affrontements avaient eu lieu. Un jeune homme de 22 ans a perdu la main. Il a été opéré cet après-midi et amputé. 11 gendarmes au total ont été blessés depuis hier. L'opération d'évacuation est terminée, vient d'indiquer le préfet d'Ille-et-Vilaine. Mauvaise surprise pour des touristes en partance pour le Maroc. Un avion de la compagnie Ryanair à destination de Fès n'a pas attendu une cinquantaine de passagers, pourtant enregistrés et à l'heure. Il aurait décollé de Toulouse avec une quinzaine de minutes d'avance. Les malheureux voyageurs sont donc restés cloués au sol et ont été informés 2 heures plus tard que l'appareil avait décollé sans eux. La compagnie low cost, qui ne dispose pas de comptoir à l'aéroport toulousain, a fait savoir qu'une procédure de remboursement allait être engagée. Une arnaque au chômage partiel de grande ampleur mise à jour. 3 personnes, 2 hommes et 1 femme, ont été mis en examen à Paris. Les 2 hommes ont été écroués. L'escroquerie porterait sur une somme de 11 millions d'euros d'argent public détourné. À l'étranger, inquiétude à Moscou en raison d'une flambée de Covid-19. La capitale russe a enregistré un nouveau record de cas de contamination pour le 2e jour consécutif, avec plus de 9000 infections en 24 heures, selon les chiffres publiés par le gouvernement. Selon le maire de la ville, cette forte poussée est due au variant Delta. On passe au sport et à l'Euro de football. La France et la Hongrie ont fait match nul un partout cet après-midi à Budapest. C'est Antoine Griezmann qui a égalisé pour les Bleus. Depuis 18h, le Portugal affronte l'Allemagne. 2-1 pour l'Allemagne à la pause. Cristiano Ronaldo a ouvert le score. Puis Diaz et Guerrero ont trompé leur propre gardien. Dans le groupe E, l'Espagne affronte la Pologne à 21h. Ce sera à suivre évidemment dans RTL Foot. On connaît la grille de départ du Grand Prix de France de Formule 1. Le Néerlandais Max Verstappen s'élancera en pole position devant le Britannique Lewis Hamilton. Pierre Gasly partira de la 6e place et Esteban Ocon de la 11e. Départ demain à 15h sur le circuit Paul Ricard du Castellet. Un doublé français en MotoGP lors des qualifications du Grand Prix d'Allemagne. Demain à 14h, Johan Zarco partira lui en pole position juste devant Fabio Quartararo. Qui pourra affronter La Rochelle en finale du top 14? On le saura ce soir à l'issue de la 2e demi-finale qui opposera à 20h45 le Stade Toulousain à Bordeaux-Bègles. Ce sera à Lille et ce sera en fil rouge sur RTL. Et puis on termine avec l'arrivée du Quintet qui se disputait à Enghien. Il fallait jouer le 2, le 14, le 13, le 4 et le 3. RTL 19h et 4 minutes. Christian Olivier, le foot le retour.
Prochaines informations, Yann Boucherie à 20h.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Le retour dont refait le match en studio ici à Paris à mes côtés. Florian Gazan, Stéphane Powels, Gilles Verdez et David Aiello en débrief de ce match France-Hongrie, résultat nul si vous nous rejoignez, 1-0 et que vous avez pu suivre sur l'antenne de RTL à partir de 15h, coup d'envoi du match qui a été donné mais depuis 14h30 et à partir de 20h jusqu'à 23h, le retour d'RTL Foot spécial Euro pour revenir sur cette actualité équipe de France, pour évidemment parler aussi du grand format du soir entre la Pologne et l'Espagne et pour débriefer du match qui oppose actuellement les Portugais aux Allemands. La seconde période vient de redémarrer. Envoyé spécial de RTL à Munich, Vincent Serrano.
Et on peut dire que les Portugais peuvent s'en vouloir puisque l'UEFA a décidé de créditer les deux buts allemands en contre son camp. Le premier de Ruben Dias à la 35e minute et le deuxième à la 39e avec Rafael Guerreiro. Les Portugais qui ont fait entrer Renato Sanchez à la place de Bernardo Silva, essayer de récupérer le ballon au milieu de terrain, de poser le pied dessus et de faire en sorte que l'Allemagne arrête d'avancer vers le but de Rui Patricio, qu'il martèle vraiment. Je vous donne cette statistique, pardon. 5 frappes allemandes ont trouvé le cadre contre une seule des Portugais. C'était le but de Cristiano Ronaldo à la 15e minute de jeu. 49e minute de jeu maintenant. 2-1 pour les Allemands.
Les Portugais qui ont fait illusion dans le premier quart d'heure. Hein, avec
mais ils n'avaient pas, il l'a dit très justement, ils n'avaient pas la récupération de la balle dans le milieu de terrain. Ils se sont fait manger.
Jeu, ouais, c'est un contre.
Et donc Renato Sanchez, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, en tout cas pour essayer de ne pas se faire étouffer dans le milieu de terrain.
Et au classement général provisoire, et j'insiste, provisoire, ce sont les Français pour l'instant qui sont toujours leaders du groupe. 4 points avec les Portugais, les Allemands, égalité de points, 3 points. Et les Hongrois, 1 point. On rappelle que ce sont les 4 meilleurs 3e qui peuvent être également susceptibles, enfin qui seront susceptibles de disputer les
loteries de finale. Mais du coup, le match de mercredi, le France-Portugal va être sans doute pour la première place du groupe, qui peut être importante pour le tableau des 8e.
Ah, il vaut mieux, ouais.
Ah, il va coûter cher. Premiers,
le tableau des 8e, si vous comprenez quelque chose à la façon de faire des Anglais au vu du match d'hier, pour savoir s'ils veulent éventuellement éviter l'équipe de France et terminer la deuxième place.
Ah, vous voulez dire que les Anglais ont calculé déjà en milieu de deuxième match du groupe?
Je ne sais pas s'ils ont calculé le mauvais match qu'ils ont produit, mais ils peuvent calculer le classement et le nombre de points à prendre pour éviter l'équipe de France en week-end de finale.
En tout cas, ce système-là peut provoquer du calcul, mais vous y allez fort hier. Je pense qu'hier, ils ont juste été mauvais.
En même temps, comme c'est une usine à gaz, ce tableau, pour faire du calcul là-dedans, faut le vouloir quand même.
Non, je pense que les Croates, eux, ont calculé pour être 3e de leur groupe dès le premier match. Et là, c'est très fort.
Vous voulez qu'on se fasse une petite radio parallèle et avec des hypothèses
avec
là,
plaisir,
du foot fiction.
On
du attend
foot la fin de Laurent Mirolet, on est à disposition.
Bon, alors, l'équipe de France. L'équipe de France, elle termine première de son groupe, le groupe F.
Mm-hmm. Ouais.
Première. Elle jouera contre le 3e du A, du B ou du C. Donc le A, on a dans l'ordre actuellement l'Italie, le Pays de Galles, la Suisse ou la Turquie. Le B, on a dans l'ordre la Belgique, la Russie, la Finlande et le Danemark. Et le C, on a dans l'ordre les Pays-Bas, l'Ukraine, l'Autriche.
Thomas Müller, on va mettre ce côté gauche, Gossens, le centre de Gossens. Et la reprise! Et la reprise allemande de Kai Havertz. Qui trompe complètement Rui Patricio. Le ballon était passé devant lui, il n'a rien pu faire. Pas même se détendre pour faire en sorte que Kai Havertz ne puisse pas reprendre ce centre de Gossens. 3-1 pour l'Allemagne qui fait mal. Qui frappe fort face aux Portugais, complètement abattu sur la pelouse. Cristiano Ronaldo, les mains sur les hanches. Et ce but de Kai Havertz, s'il n'avait pas été crédité sur le premier but allemand, avec un contre son camp finalement de Ruben Dias. Et bien maintenant c'est fait, pas de doute. Kai Havertz marque d'une espèce de, d'une talonnade avec ce centre de Gossens. Il est repris vraiment à la dernière seconde, c'est quasiment du détail, mais il s'est détendu vraiment au bon moment pour tromper Rui Patricio.
Bon, au moment où les Allemands marquent un troisième but, si effectivement ce score se confirme, ce sera une vraie petite finale entre Français et Portugais. Et
pour la première place,
pour la première place. Et je vous ai donné
la revanche. Ouais, la première place peut être pour les Allemands s'ils battent la Hongrie aussi.
C'est-à-dire
si on fait match nul contre le Portugal.
Oui, mais la France aura son destin entre ses
pieds. Oui, voilà, mais cette dernière journée va être comme très indécise dans le groupe.
Non, finalement, je referme mes.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il vaut mieux quand même terminer premier, parce que si tu termines deuxième, c'est que t'as quand même une. Parce que là, les adversaires que vous avez listés, c'est quand même très, très abordable.
Sauf si les Anglais veulent terminer deuxième.
Oui, mais si on est là, nous, c'est les troisièmes qu'on jouerait, pas les deuxièmes.
Si on est premier, oui. C'est que les troisièmes.
C'est que les troisièmes.
Alors que si on est deuxième,
c'est beaucoup plus chaud, Christian. Si on est premier du groupe.
On va perdre les auditeurs là, je crois.
Ah bah d'accord. On aura un huitième et un quart largement accessible. Exactement. Et en demi-finale, on pourrait avoir le vainqueur du match au sommet Italie-Belgique.
Exactement.
Donc jusqu'en demi.
Ah non, on ne va pas vous éliminer.
On aurait un parcours accessible.
Première, voilà. La Belgique en demi, on aime bien nous.
Il faut être premier. Il faut être premier.
J'aurais dû venir avec mon Dolly.
Restez calme.
Alors, le coup de chaud, on l'a fait.
Ouais.
Restons positifs, pas d'inquiétude. Tiens, vous voulez entendre le capitaine Hugo Lloris ?
Bien sûr.
C'est parti. Au micro de nos confrères de Bein Sport, Hugo Lloris.
Restez positif. Malgré le contexte, malgré le scénario du match, on a donné 100%, on est allé chercher ce point du nul. Même si au départ, c'est pas ce qu'on était venu chercher, mais il va falloir s'en contenter. À partir du moment où l'adversaire prend l'avantage, Ça rend les choses compliquées parce que ils étaient très bien organisés. Ils ont mis le cœur, ils ont été vaillants, généreux, avec l'aide également de leurs supporters. Ça a rendu le match très compliqué pour nous les Français, mais voilà, on est allé chercher ce point. Bien sûr, on est déçus.
Non mais ça c'est du langage diplomatique, ouais, vous normal. Parliez d'éléments de langage. Le capitaine a pour rôle de positiver, mais maintenant dans les vestiaires, ça a tonné à la mi-temps, c'est sûr que ça a tonné à la fin, et c'est sûr que ces mots-là, c'est pas les mots qui vont rester.
Moi
les
je
mots,
suis pas sûr que ça a tonné à la mi-temps, tu
ah
penses
ben si, arrêtez, non mais vous avez vu la fureur de Deschamps quand on encaisse le but, vous avez vu Deschamps qui essayait de se calmer après, c'est impossible.
Non mais le but c'est de fédérer, le but c'est pas d'atomiser un joueur qui a fait une erreur.
Il peut pas se satisfaire de cette prestation des Bleus, Didier Deschamps.
Sur la première période, avant le but, donc à la 46e.
Tu veux gueuler sur tes joueurs.
La première période, il y a le premier quart d'heure qui est délicat. Après, qu'est-ce que tu veux dire?
Vous êtes content qu'on soit mené 0-1 par la Hongrie à la
mi-temps?
Mais je
suis pas content. Je dis juste que.
On n'avance pas là.
Alors avançons.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi proposer une tactique et une équipe, j'ai envie de dire, pas frileuse, mais enfin la même équipe que contre l'Allemagne, alors que le jeu hongrois est totalement différent? Alors vous m'avez parlé, oui, mais il y a eu 10 minutes de feu, etc.
Bon, mais non, mais moi, il y a autre chose que je ne comprends pas. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Florian, puis je lui laisserai continuer sur ça.
Sur ma question?
Non, sur votre question, je vais vous répondre aussi sur le choix tactique. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des joueurs, on sait aujourd'hui qu'il va faire 35 degrés. Enfin, ce n'est pas nouveau, quoi, on le sait depuis 3 jours. On sait qu'il y a eu un match éprouvant contre les Allemands. Donc je pense qu'il y avait des choix de joueurs. Moi, je pense, par exemple, Rabiot, physiquement, était cramé déjà après 20 minutes de jeu. On aurait pu déjà faire des changements dès le début de la rencontre. Il a remis son 11 en pensant que c'était son 11 idéal. Je pense qu'il avait manqué de fraîcheur. Moi, je pense qu'il n'a pas osé aujourd'hui changer d'équipe.
Mais c'est le problème de Deschamps, c'est ce conservatisme qui est terrible. Généralement, de toute façon, il ne fait jamais de changement entre le premier et le deuxième match. C'est que là, on sait quand même que le troisième match contre le Portugal va être plus dur. L'adversaire supposé plus facile, c'est la Hongrie. S'il y a bien un match où tu peux faire un petit peu tourner, faire 2 ou 3 changements, sachant que un gros match contre les Allemands, c'est celui-là. Et là, avoir été trop frileux, Deschamps, et ben tu vas te retrouver.
Frileux,
parce que Griezmann,
moi,
il va être cramé contre
mais pour
le Portugal.
Moi, c'est pas frileux.
Mais t'as 26 déjà, joueurs,
mais parce que,
David.
Oui, mais tu fais tes changements au troisième match. Attends, là, tu dis ça, évidemment, maintenant. C'est
bah, tu vas aller faire contre le Portugal.
Parce que si après le deuxième match, tu fais tous tes changements et que tu as perdu ce match contre l'Hongrie, on va dire, mais pourquoi est-ce qu'il a touché
mais
à
pas
son 11 alors que le 11. Le,
non, mais pas tous les changements.
Le match face à l'Allemagne, il est.
Ah, mais moi, David,
si tu sais que Rabiot, il est cramé et que Pogba, il est pas bien, tu les fais pas débuter. T'as quand même du monde.
David, excuse-moi,
sinon,
tu vas à 11. T'as un staff exceptionnel, des adjoints, des médecins, des préparateurs physiques, je ne sais pas, tutti quanti, des masseurs, des trucs. Tu vas pas me dire à moi qu'il n'y a pas un moment qu'il y a un mec qui dit à Deschamps, bon, je pense que Rabiot, il a donné beaucoup et je pense qu'il est un peu fatigué. Pogba, tu l'as bien vu que Pogba, il n'était pas dans son élément.
Mais sans Pogba, mais arrêtez là.
Mais aujourd'hui,
tu peux y aller.
Après le match,
tu prends pas les autres.
J'en perds mon casque.
Christian, tu prends pas les autres.
Pogba qui fait le match, qui nous sort le match contre les Allemands.
Et alors, pourquoi tu es obligé de le faire jouer?
Donc le match d'après, vous voulez le sortir. Mais vous gérez une équipe, vous, les gars? Il y a Pogba, il fait un match de dingue contre l'Allemagne.
Et Eden Hazard, il n'était pas à 100%, on ne l'a pas remis au début, au deuxième match, on l'a fait rentrer. Eden, il est rentré 30 minutes.
Mais Eden, il n'a pas de condition depuis 3 ans. Ce n'est pas la même chose, tu ne vas pas comparer.
Mais enfin, tu joues. Mais les gars, mais moi, j'ai un moment. Et donc, il a Deschamps, donc voilà, il peut tout faire.
Non, mais
moi, j'adore Didier Deschamps, mais je pense qu'il
peut tout faire. Il est cohérent. Didier Deschamps, s'il y a une chose qu'on peut lui reconnaître, c'est la cohérence.
David, excuse-moi, mais
il va pas renouveler son 11 après.
Excuse-moi, mais comme dit Florian Gazan, on peut quand même dire les choses, ouais. Que Monsieur Deschamps, que j'adore comme coach, vous êtes champion du monde, qu'aujourd'hui.
Pourquoi tu sors Pogba sur ce match?
Mais aujourd'hui, je sors ceux qui sont fatigués. Je sors deux, trois joueurs.
Non, mais vous ne pouvez pas savoir avant que les gens sont fatigués, c'est quand même irréel ça.
Mais t'as vu le match-temps aussi,
Deschamps a gagné toutes ses compétitions.
Tu ne peux pas savoir avant qu'ils sont fatigués.
Ah non,
t'as des GPS. Tu vois pas l'entraînement
que les joueurs. Non, mais vous n'allez pas sortir des joueurs.
Vous sortez qui sur ce match-là?
Deschamps, du coup, on n'a pas les dossiers médicaux non plus des joueurs pour savoir si les GPS traduisaient un état de fatigue
enfin,
de Paul Pogba.
Christian,
ce que je veux dire,
tu es pas un novice. Après un match contre les Allemands, tu sais quand même qu'à un moment, il y a des organismes qui ont subi, qui ont pris cher. C'était un match d'une grosse intensité. Et tu sais que tu as certains de tes joueurs en VO2 Max et compagnie qui sont plus en difficulté quand il fait très chaud. Il y a des préparateurs physiques quand même. Rabiot, combien de fois Rabiot a enchaîné des gros matchs? Combien de fois Rabiot dans sa carrière a enchaîné 2 à 3 à 4 grands matchs?
Vous pouvez punir après l'Allemagne, vous pouvez pas punir Rabiot.
Mais c'est pas punir, c'est le mettre sur le banc.
S'il y avait eu un changement à faire, un seul changement peut-être au milieu de terrain, c'était de sortir Rabiot.
Oui, ça oui.
Et de faire, je le dis, mais c'est une obsession hein, de ma part. Je veux pas vous lâcher.
Oui, la tactique. Mais non, mais
la tactique, c'est-à-dire face aux Pays-Bas, face à la Hongrie, on est un poil plus offensif.
On a notre trio fantastique.
Et on met Dembélé titulaire.
Mais Dembélé, il fait une belle action et après il prend un coup, il se blesse.
Il va tout. Je vais me permettre de vous donner un élément de réponse à mon avis qui est peut-être la grille de lecture de Didier Deschamps sur cette question. On n'arrête pas de dire, on vient d'arriver avec, donc on modifie modifie tout. On était en 4-2-3-1 depuis des années, etc. Là, on intègre Benzema, donc on repart sur notre schéma. Donc, vous voulez que pour donner des automatismes à Didier, à Karim Benzema, à chaque match, on change de système. Bah, je pense que Didier Deschamps, il est dans cette logique-là. On installe quelque chose et on le garde.
Ouais, mais David, justement, puisqu'on parlait de la dimension physique, tu sais très bien que quand tu joues contre une équipe regroupée en bloc bas, déjà, si t'as pas des joueurs qui sont à 100% physiquement, tu sais que tu vas souffrir. Parce que les mecs, ils font que défendre. Donc, eux, la chaleur, finalement, pour dégager les ballons, c'est moins fatigant. Mmh. Donc, déjà, la donnée physique, elle est hyper importante. Après, tactiquement, je suis d'accord avec Christian. Il y a un moment, il faut un petit peu évoluer. Deschamps, ça fait 2 ans qu'il teste des différents schémas tactiques. Et donc, à l'arrivée, c'est pour jouer toujours avec le même.
Bon. Mais là, vous voulez faire quoi ? N'oubliez pas que Deschamps, comme joueur, a connu ses plus beaux succès. Quand on gagne les 2 premiers matchs, on fait tourner au 3e. Ça, c'est c'est le gimmick, le leitmotiv Jacquet Deschamps.
Et ça marche.
Donc, oui, bah, ça a toujours marché.
À l'occasion du prochain tournoi, quand vous reviendrez dans le match, vous ne pourrez pas user de cet argument-là.
Non, mais c'est sans doute. Là, on a buté. Mais sinon, on faisait tourner au 3e match, on va pas faire tourner au 2e. Par contre, c'est de la folie.
Il y a un vrai souci.
Ouais, mais là, on fait plus du tourner face au Portugal, là, cette fois-ci.
Ah, bah là,
il va être obligé de faire des changements.
Non, mais là, il faut gagner ce match. Et Griezmann, il est fumé.
Mais là, on va tirer des leçons, des lacunes individuelles, on va y venir et on va en sortir certains.
Voilà. Griezmann, il est fatigué. Alors faites votre équipe.
Bah, Pavard, on va le sortir déjà. Oui. On peut pas remettre Pavard.
Non.
Non, mais Pavard, il est pas un défenseur.
Tu vas pas mettre Dubois quand même contre le Portugal.
Pardon ?
Tu mets pas Dubois, j'espère.
Non, mais je ne mets pas Pavard. Je ne mets pas Pavard.
Tu
mettez qui vous voulez. Oui, bah, voilà.
Koundé.
Bah oui.
Koundé, ok.
Bah, évidemment, on ne peut pas mettre Pavard. Il est responsable sur le but. Il est faible physiquement. Et on a l'impression que c'est un moins bon défenseur qu'il n'est contre attaquant.
Moi, je pense que ce n'est pas faible possible. Physiquement, surtout quand je joue Bayern. Moi, je pense que c'est surtout qu'il a des lacunes tactiques aussi, lui, dans sa position d'arrière droit. Je veux dire, quand tu vois Zalaï, qui était un joueur, c'est un bon joueur, ce Zalaï. Et moi aussi, en termes de scouting, à un moment, est-ce qu'on n'a pas prévenu Pavard comment Zalaï allait l'avoir de... Parce que Zalaï, il l'a rendu fou pendant 25 minutes. Moi, je ne comprends pas. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut trouver une autre solution. Mais qui ? Bon, Koundé ou là. Par contre, je pense qu'il faut faire
le
souffler.
Le centre de Kimmich et la reprise. Et la reprise de la tête de Gossens. Et la reprise de Gossens. 4-1 pour les Allemands. 60e minute de jeu. Que c'est dur pour les Portugais qui souffrent. Tête baissée. Cristiano Ronaldo au milieu de terrain qui ne revient pas. Qui s'est agenouillé face à cette supériorité allemande qui maîtrise le jeu, qui fait tourner le ballon, qui ne laisse pas une seconde de répit aux Portugais, complètement abattu par cette concrétisation de Gossens qui a permis d'abord d'avoir ce centre de Kimmich parfaitement lancé au second poteau. Gossens n'a plus qu'à avancer légèrement la tête. Rui Patricio est battu dès le départ et le ballon va se loger dans les filets. Une maîtrise collective des Allemands sur ce 4e but.
Et ils prennent cher les Portugais.
Et sur les côtés, ils sont très faibles, c'est à retenir pour Didier Deschamps.
Ouais. Par contre, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit notre ami Florian Gazan.
Et ensuite, on visitera les réseaux sociaux.
C'est l'état de santé, l'état de forme devait être notre grisou. Parce que là, il vient de faire 2 matchs à fond, il y a donné. Ouais. Et on fait quoi contre le Portugal ? On le met pas ? On le met ? Parce que c'est une vraie clé, c'est la première fois que ça arrive.
On peut pas sortir Griezmann.
C'est le leader, le meilleur joueur.
Est-ce que tu penses pas que lui est un peu...
Bah, peut-être on le sortira à la mi-temps, ou je sais pas, mais tu peux pas débuter sans lui.
À la mi-temps, c'est pas son style, Didier Deschamps. Parce
non, mais ce que je veux dire,
aujourd'hui, il y en a que tu peux en sortir à la mi-temps.
Si il est carabo à la mi-temps, tu le sortiras, mais tu peux pas débuter sans lui.
Je dis pas ça.
Griezmann, 93 sélections, 38e but, 21 passes décisives au sein de l'équipe. Il marque un but toutes les 100
sélections. C'est ça l'histoire dans la gestion de Didier Deschamps.
Il donnera encore.
Moi, je dis pas qu'il doit pas jouer, je dis
Sauf que
dans cette gestion c'est compliqué, il vient de faire 2 matchs à fond.
Il a couru 13 km je crois contre l'Allemagne et ce soir c'est pareil, donc c'est franchement
c'est Robocop.
Et bien moi je trouve que c'est un peu trop, je suis désolé, il fait ce qu'il veut en Espagne en Liga, mais face
il donnerait
plus offensivement s'il dépensait un peu moins défensivement.
Il aime ça, en même temps il a besoin de toucher le ballon,
peut-être qu'on lui demande de faire ça.
C'est le prix à payer pour aligner les trois fantastiques. Deschamps leur a dit je vous aligne tous les trois mais vous bossez derrière, donc Griezmann il se sacrifie.
Je pense qu'il a bossé plus qu'à Mbappé défensivement.
Mbappé et Benzema, les replis défensifs.
Les mecs, ils n'ont pas travaillé aujourd'hui défensivement.
Ils les ont fait contre l'Allemagne. Ça, c'est toujours le problème de l'équipe de France. Contre des gros adversaires, on fait les efforts. Quand c'est moins prestigieux, là, il n'y a plus personne.
Sûr que ce soit le. le raisonnement quand même.
Mais donc Griezmann, ouais, il doit donc se sacrifier pour les deux autres.
C'est pas un petit match là, Hongrie. Non, j'arrive Stéphane, mais c'est pas un petit match là, Hongrie.
Non, mais c'est un petit adversaire. Donc dans les têtes, on se dit normalement ça passera tranquille, sans faire un peu tous les efforts.
Sur le fond, je peux pas donner tort à Florent parce que là je vais être un peu profond.
On l'a déjà constaté.
Mais non, mais si tu mets. Tu dis avec des si, dit Christian. Mais je suis désolé. Comment rater ce Benzema? Je l'ai jamais vu rater un truc pareil. Il te les met, c'est fini. Les Hongrois ne reviennent plus jamais, ils explosent. En plein
avant
vol.
Celle-là, moi je veux bien, mais si tu veux parler de ça, c'est celle de Griezmann avant, il doit la mettre.
Mais non, mais donc minutes. Ça fait deux. Donc, si voilà. C'est 2-0, quand il dit Florent, c'est un petit match sur papier à la base.
Mais c'est un petit match, moi il y a
si
autre chose.
Si t'es sérieux, tu les bats facilement.
Sur l'intensité, les Hongrois rentrent physiquement dans les Français dès le début du match. Je trouve que la réponse des Français, elle est à la hauteur. C'est-à-dire qu'ils ne s'énervent pas. On voit notamment Kimpembe, ouais. Il les cherche, etc. Ils restent dans le truc, mais physiquement, ils répondent. Mais c'est juste qu'ils ont du mal à ce moment-là à construire.
Mais
physiquement,
mais après, tout s'est enchaîné dans la faveur des Hongrois. Le public qui encourage, ils mettent un but à la 42e.
Mais arrêtez
43e.
Avec votre public.
Si tu as joué le dimanche matin et qu'à un moment avec tes copains tu pouvais en mettre 2-3, tu les as pas mis, que derrière t'as tout contre toi, que t'en prends un à la 42e minute et que derrière il fait chaud, que t'as ce public contre toi,
je peux te dire que
c'est compliqué pour revenir dans le match.
Arrêtez,
tout était en faveur de la Hongrie.
La vérité c'est que le public c'est une excuse bidon.
C'est pas vrai.
Je dis ça quand vous discutez avec les joueurs et que vous leur dites quand vous avez joué à l'extérieur, est-ce que c'est un désavantage, est-ce que le public machin, ils vous disent mais que ce soit à domicile ou à l'extérieur, maintenant c'est terminé cette histoire.
Alors pour ça je suis d'accord, mais dans l'autre sens par contre, parce que c'est éliminer l'équipe de France, j'y crois pas, mais que c'est booster les Hongrois, c'est une évidence.
Mais bien sûr,
c'est
bien sûr. Ils ont été boostés, mine de rien.
Ça
les a moins boostés contre le Portugal.
Je l'entends.
Non, mais vous avez raison. Vous avez raison, Christian, mais je pense quand même qu'il y a aussi une perte d'habitude. Ça fait quand même un an et demi qu'ils jouent sans public. Mine de rien, quand même, ça casse un peu les repères. Et quand tu te retrouves à nouveau avec 60 000 personnes qui poussent l'adversaire.
Bon, à propos de perte d'habitude, on perd la nôtre. C'est de demander la vie aux auditeurs. Sur les réseaux sociaux, le compte @RTLFoot, on n'a pas salué depuis le démarrage de l'émission.
C'est scandaleux.
L'ami Durieux, Baptiste Durieux, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Effectivement, beaucoup de messages, ils sont très drôles. Le premier, l'absence de Mats Hummels se fait ressentir en attaque. Voilà, on va terminer là-dessus. Message de Charlie également, Pavard est tellement cata que j'ai presque envie de voir Léo Dubois. C'est ce que nous dit Charlie. Message de Xavier, assez honteux ce match, mais ça va permettre de redescendre un peu sur terre et de voir comment Deschamps va remobiliser ses troupes. Et commencez pas à parler d'arbitrage s'il vous plaît, on est plus digne que ça. Message de Giggs, Rabiot est le meilleur milieu du monde quand il ne fait ni trop froid ni trop chaud, c'est important. Et donc là il faisait très très chaud cet après-midi. Message de Bruno également, le Benzema depuis le début de l'Euro me fait penser au Benzema de 2014, peu d'influence, presque neutre, pas du tout décisif aujourd'hui, et surtout énorme occasion complètement ratée, l'impression qu'il se met la pression et qu'il a besoin de marquer très très vite pour loter assez rapidement. Message de Sadio également, j'ai peur que Mbappé ne demande certaines garanties avant de jouer le prochain match de l'équipe de France. Pour rappeler aux auditeurs, Mbappé demanderait des garanties au Paris Saint-Germain pour prolonger. Donc il ferait
évidemment, il y a beaucoup de causticité sur les
arbitrages. J'ai pas compris parce que nous on n'a pas parlé d'arbitrage, je vois pas ce qu'il y aurait.
Là c'est Baptiste Durieux qui est conditionné par les discussions que nous avons eues hors antenne. C'est scandaleux de l'arbitre, il y a au moins 5 minutes d'arrêt de jeu, temps additionnel.
Il en a mis 4, ça va.
Non, mais
si
pas moi,
on est arrivé là.
Je vois qu'un auditeur parle de match honteux. Si ce contenu-là est honteux, qu'est-ce que ça va être
Non, par contre, le fait que ça nous fasse redescendre sur terre, c'est
ça. C'est ce que je voulais rebondir, c'est que nous, je dis nous parce que je suis belge, j'aurais aimé qu'on soit accroché contre le Danemark pour se rendre compte qu'on a des grosses lacunes défensives et qu'on doit se remettre en question. Là, on est reparti en disant on est beau, on est grand, on est fort. Les Français, ils vont quand même se poser les bonnes questions.
C'est bien.
Pas forcément une mauvaise chose.
La réduction du score, elle est signée Diogo Jota après un coup franc tiré par les Portugais sur le côté gauche légèrement à l'entrée de la surface de réparation. Diogo Jota qui n'aura plus qu'à bénéficier d'une bourde des défenseurs allemands pour revenir au score difficilement. C'est vraiment compliqué pour les Portugais de se relancer dans le match. 67e minute de jeu, 4 pour les Allemands, 2 pour les Portugais.
Merci Vincent Serrano, Henri spécial de RTL à Munich, 4-2. En tout cas, c'est le match.
Et assiste encore de Ronaldo.
Ouais, passe D.
Le match le plus prolifique depuis le début de la compétition.
Ça flash, ouais.
Messieurs, à 19h25, on en était au.
L'arbitre, non.
Cela dit, pas extraordinaire l'arbitrage depuis le début de la compétition.
Ah, ça avait bien commencé. Générale,
ouais. Alors, oui. Tous ceux qui voulaient de la vidéo en veux-tu en voilà, il y a une sous-utilisation de la vidéo finalement.
Oui, mais c'est pas plus mal parce qu'on voit sur les mains. Sur les mains, bon, on avait vu quand même pendant toute une saison, on avait droit à des scènes ridicules. Sur les hors-jeux aussi parfois. Donc, bon, voilà, si on revient un petit peu à l'arbitrage humain, c'est pas plus mal.
Et voyez-vous, il y a justement la vérification du but. Mmh. Actuellement,
oui, pour un millimètre.
Mais là, il n'y a pas hors-jeu.
Bon. Oui, c'est exactement ça. Ça fait trois fois de toute façon que l'arbitre anglais utilise la VAR.
Je serai l'arbitre, je l'annulerai. Il y a quand même largement plus d'un millimètre.
Puisqu'il y a eu un but annulé pour les Allemands au début du match.
Il y avait juste, je pense, à mon avis, un doute sur la reprise de Cristiano Ronaldo. Savoir si Diogo Jota, justement, était devant lui ou pas. Mais bon, voilà, c'est checké, c'est validé.
C'est validé.
4-2.
Alors, les messages, c'est terminé, Baptiste Durieux. Il reste encore quelques avis à partager sur l'antenne de RTL.
Deux petits messages, un sur Pavard et un sur Mbappé, évidemment, qui défraient toujours la chronique. Message de Guillaume, merci pour la reprise de volée second poteau, Benjamin. Mais il est temps de laisser ta place à Jules Koundé. Beaucoup de critiques, évidemment, sur Pavard. Et puis, message de Walid, il y a pas mal de déchets, mais on peut pas enlever la personnalité de Mbappé depuis le début de l'Euro. C'est pareil avec le Paris Saint-Germain. Le danger offensif vient pratiquement que de lui.
Merci, Baptiste. Gilles Vermez.
Non, là où. On parlait de redescendre sur terre et moi je fais aussi amende honorable. Pour moi, les Bleus sont tellement plus forts qu'ils sont déjà champions d'Europe. Pour moi,
oui,
je vous le dis très franchement.
Je le disais
non,
tout
mais
à l'heure.
Je vous le dis très franchement. Là, moi, je fais partie de ceux. Personne ne peut nous battre. Donc, on est déjà champion d'Europe. Et je pense que, moi, ça compte peu, mais je pense que pour les Bleus aussi, ils sont tellement forts dans toutes les lignes qu'ils sont déjà un peu champions d'Europe.
Mais, ça, c'est un vrai risque, quand même.
Mais c'est un vrai risque. Ah c'est bon, pour ça que d'accord. Je dis, je fais amende honorable. Oui. Et je nous voyais survoler la compétition. Je nous voyais trop forts pour que qui que ce soit puisse nous importuner. Mmh. Et là, c'est un avertissement que j'espère sans frais, mais c'est un vrai avertissement.
C'est la première fois que j'entends un Français qui fait.
Amende honorable ?
Ah oui, c'est rare.
Très souvent.
Mais qui disent, tiens, nous étions beaux, un peu moins beaux. C'est rare, ça. Franchement, je vais payer un coup. Hein.
Que l'opinion publique ait pu avoir ce sentiment, bon, après tout, c'est pas très important. Par contre, que des joueurs comme Coman, qui est venu en conférence de presse expliquer qu'on avait la meilleure attaque du monde et probablement la meilleure attaque du monde, moi, ça m'a beaucoup questionné et quelque part, ça m'a pas plu. Parce qu'effectivement, je pense que c'est. On peut pas avoir cette attitude avant une compétition comme ça aussi incertaine.
J'ai cru qu'il était devenu belge, moi, Coman. C'est genre incroyable.
T'as la fuite ce soir.
Qui était beau, non, mais... moins beau.
À la fin du
bal. Battu par les Français se voyaient toujours aussi beaux malgré leur défaite.
Mais, c'est moi le premier qui le dit. C'est oui, pour ça là, que je pense que c'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens. Attendons. Et je pense que ça soit pour les Belges et les Français. Mais je pense que les Français sont plus forts que les Belges intrinsèquement dans la qualité de l'équipe.
Mais après, il y a le risque objectif. Tout le monde disait Kanté, Ballon d'Or. Mbappé, le meilleur du monde. Pogba, c'est un des meilleurs milieux de terrain. Une défense de fer, un bon gardien. Donc voilà, le constat, il est là.
Oui.
Et c'est pour ça que moi, je tire quand même le signal d'alarme après ce match contre la Hongrie, parce que ça veut dire qu'il faudra se battre jusqu'au bout. Et est-ce que ces joueurs-là ont la capacité de se remettre en question pour se battre jusqu'au bout alors qu'ils pensaient eux aussi être les meilleurs du monde? Ça, c'est un vrai risque mental.
Moi, ce qui me rassure, c'est que plus on va aller dans la compétition, plus on va jouer des gros adversaires. Et je pense que plus c'est gros, plus les Bleus sont à l'aise. Donc c'est ça qui est rassurant.
Ouais. Ne les enterrons pas.
C'est pas ce que je veux dire.
Parce que je vous regarde, je vous reproche.
Il n'y a pas de drame, c'est match nul. Vous n'avez pas perdu, c'est match nul. J'ai l'impression que vous avez perdu.
J'ai cru qu'on avait perdu 4-0.
Ah oui, c'est ça.
Non, mais. Il faut quand même appuyer en général là où ça fait mal.
Ouais, là, vous avez appuyé.
Vous avez bien appuyé.
Bah, appuyé sur Pavard. Alors là, vous avez vraiment mis.
Voilà, quand vous appuyez, vous appuyez dans un consensus et on serait champion d'Europe, vous entendre,
absolument.
Depuis 18h30. que fait-on? On tourne une page de publicité.
Bah oui, tournons.
Et puis ensuite, on va. Quoi changer? Comment s'améliorer? Oui. Et comment envisager le meilleur en vue des huitièmes de finale? Vous êtes d'accord sur ces thèmes?
C'est le sujet du poste d'arrière droit.
Qui mettre?
Il y a des Dubois, il y a des Koundé, mais est-ce qu'on a toutes les garanties?
Et puis on fait un petit tour d'horizon quand même. On parlera de l'Italie, on parlera de la Belgique, des Pays-Bas, les trois premières équipes qualifiées, des équipes en difficulté, l'Espagne, l'Angleterre, la Croatie, si vous voulez. On parlera non l'arbitrage, ça y est, c'est fini.
Des surprises aussi, des équipes qui nous surprennent.
Ce dont on aurait pu parler s'il n'y avait pas eu l'Euro. Pu parler de Bordeaux, en difficulté. Michel Platini, syndicat des joueurs.
Galtier.
Et ça vient de tomber. Memphis Depay qui a signé à Barcelone.
Ouais.
Tout de suite.
RTL, on refait le match. RTL. On refait le match.
C'est Galtier qui dit, je l'ai prévenu au mois de...
Nous sommes à l'antenne, messieurs. Sommes à l'antenne.
Bah, on parlait, voilà.
Mais, c'est le foot, hein.
Mais la passion, ça ne s'arrête pas nous, pendant c'est la publicité.
Il n'y a pas de page de pub dans notre passion. Nous, on est
rance. Et de quoi parliez-vous pendant la publicité?
Eh bien, de l'Union.
Est-ce que ça intéresse les auditeurs?
De Christophe Galtier. De Gérard Lopez, de Lille de Bordeaux.
Et de Christophe Galtier.
Christophe Galtier.
Et d'Olivier Létang.
Voilà.
Eh ben, il devant la Lille, ça va pas fort, hein.
Non,
ah bah c'est, le gros bordel. Vous savez que mon petit cœur est lillois,
c'est quand même fou parce que titre de champion et derrière ça va pas fort.
Bah, c'est surtout qu'il y a des maintenant on apprend que depuis février le coach Galtier a dit qu'il voulait partir. Monsieur Létang ne veut pas payer les commissions par la société de Monsieur Campos et qui est couvert par Monsieur Lopez. Donc c'est une histoire de dingue puisque Nice veut absolument Galtier mais ils veulent pas payer les 10 millions. Enfin quel bazar. Bah,
c'est les sujets dont on aurait pu parler.
Non, mais c'est chaud.
Ça choquera peut-être dans la dernière.
C'est un peu la marge.
Parce qu'il y a un euro, c'est ça en ce moment.
Oui, absolument. Il y a un euro à Munich avec un match de football et déjà 6 buts au total. Portugal-Allemagne, Vincent Serrano.
Et les Allemands qui déroulent, hein, vraiment, qui vont commencer à sécuriser sérieusement. 4 changements à vous signaler côté allemand. Alstenberg qui a remplacé Gosens, Emre Can qui a remplacé Mats Hummels. Et à l'instant, à la minute qui précède, Goretzka qui fait son entrée enfin dans cette compétition, qui a remplacé Kai Havertz, auteur d'un gros match en attaque, qui a réussi à poser beaucoup de problèmes à ses Portugais. Puis le dernier changement, c'est Schüle qui est rentré à la place de Gundogan, ce qui a permis à Emre Can de revenir un peu au milieu de terrain. Mais on sent vraiment que les Portugais sont un peu abattus vraiment par cette armada allemande et qui a martelé vraiment le but de Rui Patricio. 7 tirs cadrés sur 11.
Ah ouais, mais
2 tirs cadrés seulement côté portugais.
Si on a l'analyse, c'est que si les Portugais ont dû cravacher contre les Hongrois, cravacher pour gagner cette rencontre, et ils payent peut-être aussi ces efforts comme les Français ont payé les efforts
les
du
Allemands
premier match.
Les Allemands se sont battus aussi.
Oui, mais c'est dur d'enchaîner quand il y a une température comme ça.
C'est plus dur pour les Portugais que pour les Allemands.
Non, mais c'est dur
d'enchaîner. Les Portugais sont pas habitués à la chaleur, faut le dire.
Et puis surtout, les Allemands sont habitués à leur public, Gilles. Oui.
Mais non, mais j'essaye de vous dire que quand c'est difficile d'enchaîner.
Quand il y a du soleil, ils sont pas habitués. Quand il pleut, ils ont des mal.
Écoutez, est-ce qu'on peut appeler Louis Baudin? J'ai l'impression que tout autour de la météo, on a un spécialiste.
La belle histoire, quand même.
Non, mais je peux vous dire qu'il fait quand même beaucoup moins chaud aujourd'hui dans les jours précédents. Donc on peut pas
ça veut dire que répéter les efforts aussi violents après une saison difficile, c'est compliqué.
En fait, les Allemands préparaient déjà l'élimination des Belges à l'aune du bulletin
météo. Je suis en train de vous dire que les Allemands ont fait un bon match contre les Français, ils l'ont perdu, mais ils sont en train de faire un gros match contre les Portugais, qu'il faut pas les enterrer pour la victoire finale.
J'ai l'impression qu'on a surtout énervé les Allemands en les battant. Ça, c'était on a pas été bien dessus.
Quand ils ont été menés 1-0, je pense qu'il y a quand même une part d'une réaction d'orgueil, quoi.
Perdre deux matchs. Les Allemands sont peut-être candidats à la victoire finale, faut pas les enterrer trop vite.
Bien sûr.
Et ne nous moquons
c'est ce que de toute façon tous les supporters.
Des Belges, on est là. On a 6 points.
Numéro 1 au classement FIFA.
Ça c'est classement Coca-Cola, m'énervez pas. Mais on a 6 points.
Le classement FIFA, les Hongrois, 37e.
Ah, grosse nation.
Et la belle histoire, Loïc Négo.
Ah oui, le français,
c'est super,
français naturalisé, hongrois,
naturalisé,
qui a jamais réussi à s'imposer en France,
et qui a joué avec pas mal de joueurs français dans les catégories.
À Nantes,
jeunes,
mais à Nantes également, il a eu sa chance, est passé par le centre de formation sous Eli Bop.
C'est une belle histoire.
Passé par plein de clubs belges, anglais.
Ce soir, on aura Emrico Lapuerta, le nouveau défenseur espagnol, qui va jouer contre la Pologne. Une belle histoire aussi, peut-être.
Loïc Négo, pas peut-être, mais sûrement au micro de nos confrères de beIN Sport.
On a travaillé dur, notamment au vu du premier match. On savait qu'il fallait vite relever la tête. Malheureusement, relever la tête contre les meilleurs. Et aujourd'hui, on ressort du match content. Même si honnêtement, je ne vais pas vous le cacher, on a une petite frustration. Parce qu'on sentait que les 3 points étaient un petit peu à notre portée. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a une petite part d'émotion. Mais derrière, coup de sifflet de l'arbitre et on oublie tout ça. On est focus sur le travail à faire.
Loïc Négo.
Les 3 points à leur portée, j'ai pas vu beaucoup d'occasions, les Hongrois.
Non, mais je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que quand tu mènes 1-0 et tu te dis tu peux tenir, quand tu as ouvert le score, t'as fait le plus dur contre l'équipe de France. Je pense que c'est plus par rapport à ça que par rapport au contenu du match.
Ils sont égalisés sur une erreur défensive, c'est vrai.
C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je veux dire, la première erreur, c'est Pavard. La deuxième erreur, c'est Kimpembe. Et puis la troisième erreur, en tout cas,
qui sur l'accumulation, Varane, oui.
Le problème qu'on a après 2 journées, c'est que notre meilleure attaque du monde, elle a marqué une fois grâce à un contre son camp de Hummels et une fois encore, beau but de Griezmann, mais après un dégagement de Loris et une défense centrale hongroise totalement absente. Et ça, c'est un problème.
Et il a tout à fait raison, Gilles, je l'avais noté quelque part et effectivement, il faut quand même le rappeler parce que ce but, un but un peu, c'est pas chanceux, mais enfin je veux dire, il y a un concours de circonstances quand même assez particulier, pour ceux qui n'ont pas vu les images, le long dégagement de Hugo Lloris à destination de Mbappé, le centre de Mbappé effectivement pour...
Ça fait partie du foot. Il y a du boulot de Mbappé quand même sur l'action, il déborde et il centre quand même. Enfin, je veux dire,
il reste pas pour récupérer le ballon. C'est quand même un petit cadeau, quoi. C'est un peu comme les belles
Le cadeau, c'est surtout le défenseur qui remet dans l'axe.
Non, le cadeau, c'est que la défense est naïve, il remet dans l'axe, mais surtout, il laisse pas rebondir le ballon tout de suite. Je veux dire, tu te jettes comme un mort de faim sur le ballon.
Tu débarrasses. Dire, on est d'accord.
Hein, on parlait du PTM du dimanche matin et des matchs du dimanche, tu débarrasses. Mmh.
Mais ils ne se parlent pas, surtout. C'est toi, personne.
Il y a trop de bruit. Bon. Voilà. Trop d'ambiance. Ouais.
Mais David, je le sens très très proche des Bleus. Hein.
Oui, mais je pense que je vais avoir un poste au service communication.
Ah oui, à mon avis, la semaine prochaine, c'est.
Communication, vous blaguez. Moi, c'est la présidence qui m'intéresse.
Ça viendra.
Je ne vais pas lâcher RTL pour la communication.
Frappe de Renato Sanchez et le poteau. Que c'était dangereux cette action sur un corner joué vite par Moutinho qui a préféré remettre au milieu du terrain. Renato Sanchez qui était tout seul, pas un Allemand, à moins de 3 mètres, et cette frappe limpide, la balle flottante qui va taper sur le poteau gauche de Manuel Neuer qui ne pouvait absolument rien faire sur le coup. Beaucoup de chance pour les Allemands qui remettent le pied sur le ballon. Emre Can au milieu de terrain, 79e minute de jeu. 4 buts pour les Allemands, 2 pour les Portugais.
Merci Vincent, antenne ouverte. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit sur cette équipe de France depuis 18h30?
Il y a la question Benzema centrale, fondamentale.
Bon, on a démarré avec Benzema.
Oui, mais...
Vous voulez le sortir, Gilles?
Non, je ne veux pas le sortir, mais il devient un problème. Moi, je l'adore, mais il devient un problème.
Bon, moi qui adore Olivier Giroud.
Vous ne pouvez pas... Christian...
Attendez, oui. J'ai trouvé son comportement un peu bizarre.
Expliquez-vous.
Il est rentré... Je ne l'ai pas vu beaucoup cavaler. Je ne l'ai pas vu se propulser devant le porteur du ballon hongrois. J'ai trouvé qu'il y avait comme un espèce de...
Résigné.
De résignation. Voilà. Résignation, c'est différent que du renoncement que j'aurais voulu employer.
Frustration. Un peu. C'est toujours 10 minutes.
Et tu donnes tout, là. Tu as 10 minutes, je veux dire. Tu
as un esprit particulier, je suis d'accord avec
vous. C'est ce qu'a ressenti Philippe également au stade. Philippe nous disait ça.
Et Dieu sait si j'aime Olivier Giroud.
Et Dieu sait s'il a l'habitude de rentrer dans les matchs et de tout faire, au contraire.
Et est-ce qu'on peut le défendre en rentrant? Est-ce qu'on peut le défendre? Est-ce qu'il ne peut pas rentrer un petit peu plus tôt? Parce que 10 minutes.
Non, tu ne peux pas le défendre là-dessus. Sur l'attitude, tu es à l'Euro.
Moi, je pense que je sors Benzema 25 minutes avant la fin.
D'accord, mais il n'empêche que.
Et j'adore Benzema.
Mais vous ne pouvez pas le sortir avant la fin. Vous ne pouvez
pas.
Mais vous ne pouvez pas le sanctionner. Il revient. C'est très compliqué, Benzema.
C'est
un point névralgique.
C'est pas une sanction de sortir un gars un quart d'heure de la fin dans un match de football. C'est pas une sanction.
C'est très compliqué,
mais
Benzema.
Non, c'est compliqué.
Il revient. Si vous le sortez avant qu'il marque, vous brisez encore un peu plus sa confiance. On sent que là, il y a un problème psychologique. Il veut être le sauveur de la nation.
Il sort à un quart d'heure, je crois.
Oui, 76e. Il veut tellement sauver la nation que du coup, il en rate même des gestes hyper faciles. Sa reprise sur la passe d'Mbappé,
elle est pas super
facile. C'est incroyable.
Elle est derrière. C'est pas
le Benzema du Real, vous êtes d'accord?
C'est pas le Benzema du Real parce qu'il débarque dans cette équipe de France et il a pas l'habitude. Encore une fois, je suis désolé, mais
tant qu'il marquera pas, ce sera un problème.
Alors qu'est-ce qu'on fait du coup?
On va chercher un pélo et puis on le fait tirer à Benzema. Est-ce qu'il marque?
Il y a une autre énigme. Je suis désolé, mais Dembélé, je vais vous choquer. Ok, il rentre, il met une mine là, il met
sur le poteau.
Ouais, mais derrière, il perd 4-5 ballons. Je ne sais pas ce qu'il fout. C'est un grand talent. Énorme talent, mais moi je pense que dans sa tête ça tombe pas rond.
Stéphane,
non plus.
Et dans sa tête ça tombe pas rond, mais dans son corps aussi, c'est quand même incroyable qu'il se blesse encore au bout de 30 minutes.
Enfin,
il avait réussi un petit peu à revenir au niveau de la régularité physique. Et
tendon
là,
derrière le genou, disait Didier Deschamps.
C'est quand même terrible.
Il se blesse à des endroits où personne ne se blesse.
C'est
quand même
c'est bizarre.
Non, mais c'est une fragilité qui est quand même qui interpelle quand même.
Non, mais ce qui est terrible, c'est aussi l'attitude. C'est qu'il rentre, il y a une espèce de...
L'attitude, tu peux pas dire ça, parce que
coup de vitesse, il fait des différences.
Il est blessé très vite.
Il y a une espèce de nonchalance,
sa première prise de balle, c'est le crochet, la frappe sur le poteau.
Non, il amène quelque chose. Il amène quelque chose, il amène un dynamisme quand même.
Pendant 5 minutes. Et après, il tombe dans cette
travers. Il a pris un coup très rapidement, donc c'est difficile. Il a un langage corporel qui parfois fait penser à de la nonchalance, mais c'est sa fluidité qui fait ça.
Ça nous fait quand même deux joueurs qui sont en délicatesse avec... donc notre ami Dembélé
Enfin,
et Lucas Hernandez
Physiquement
raison pour laquelle c'est digne qu'il l'a suppléé aujourd'hui.
Qui n'a pas été mauvais.
Mais attention, hein, 26 joueurs, c'est bien, mais il y en a déjà deux qui sont en délicatesse.
Ouais. Mais Digne a fait son match, non?
Il est un peu plongé en deuxième mi-temps, mais franchement, il a fait le boulot.
Ceci, les cas de figure sont assez différents, dans le sens aussi où on a également le cas Pavard en plus à gérer. Là, ce n'est pas un problème physique, mais on n'a pas non plus un réservoir à droite.
Tu ne peux plus le laisser.
Dubois, il n'a pas le niveau. Koundé, il est très fort, mais enfin, il débute.
Sur la droite avec Thomas Müller, il l'a vu. Est-ce qu'il l'a vu, Thomas Müller? Gracia qui est le ballon, la frappe qui passe au-dessus du but. Ou que c'est pas passé loin pour Goretzka, qui aurait peut-être de meilleurs choix à faire. Thomas Müller notamment, qui demandait la balle à droite. Serge Gnabry côté gauche, il a préféré la jouer seul et frapper en
c'est France. Bon signe pour l'équipe de France, parce que les Portugais ont l'air d'être quand même à la ramasse défensivement. Hein.
19h41, messieurs, on tourne une page de publicité et puis on se projettera justement sur le match de la semaine prochaine. J'arrive pas à me le mettre
mercredi.
Mercredi, 21h, Budapest, et ce sera sur RTL de 20h à 23h. Page de pub, quelle équipe pour jouer contre le Portugal mercredi prochain?
On refait le match sur RTL. On refait le match sur RTL avec Christian Olivier.
La suite est bientôt la fin d'On refait le match. 19h43, puis entre 20h et 23h, RTL Foot spécial Euro 2020, bien évidemment. 7 heures de programme quand même au total, hein, ce samedi sur l'antenne de RTL.
Consacré
au football. Il faut ce qu'il faut.
On est encore en train de parler durant la pub de l'équipe de France, et on a parlé de Mbappé qui tire ce coup franc. Moi, ça m'a interpellé.
En début de match.
Pourquoi c'est lui qui le frappe? Et d'ailleurs, il le frappe mal. Et je pense qu'à un moment, il veut débloquer son compteur, mais j'ai quand même l'impression que c'est... moi je vois pas pourquoi c'est lui qui le frappe.
Et d'ailleurs l'image était furtive. Parce
moi j'ai trouvé ça bizarre.
Chose, mais j'ai l'impression que Griezmann ne s'attendait
pas. Je vous confirme. C'est que Griezmann a pris le ballon, il allait le frapper. Mbappé est venu lui piquer le ballon.
Et on voit vite Griezmann.
Oui, mais on voit qu'il n'est pas très content.
C'est bizarre.
Je confirme. Mais
les attaquants ont besoin de marquer aussi pour leur stade personnel qui va
légitimer la
France. Vous, pas l'ancien. Ne me parlez pas des stades, vous l'ancien. Non. Ne parlez pas des statistiques. On est abreuvé. On est noyé dans
la marre de ça.
Et c'est juste. Ça,
non mais pour ce que ça compte. C'est que pour Mbappé ça compte beaucoup.
Bah oui.
Et on sait qu'il est en tête de gagner le Ballon d'Or. Il sait que pour gagner le Ballon d'Or, faut être meilleur.
Il a dit qu'il va être coup franc dans sa carrière.
Bien sûr.
C'est pas tireur de coup franc.
Mais je te dis pas le contraire. On est en train d'expliquer ce qui s'est passé.
Bah, et moi, j'ai dit quelque chose. Bleus pour le ballon,
je pense que c'est un sujet à suivre de près pour Didier Deschamps. Parce qu'on sait qu'entre Griezmann et Mbappé, ça n'a pas toujours été idyllique. Que là, il va y avoir.
Tu peux parler au présent. C'est pas les meilleurs amis de la terre.
Ce que j'ai compris, ça va mieux. Moi, il y a 2-3 ans, c'était carrément très très compliqué. Là, ils sont un petit peu
il y a plutôt intérêt de faire
mais ce qui va se passer, c'est que sur les pénaltys et les coups francs, il va quand même falloir qu'il y ait un petit peu de...
Ça c'est un vrai risque pour les Bleus, c'est que l'opportunité individuelle prenne le pas sur le collectif.
Pour l'instant,
je veux marquer... Non, pas encore. Mais
je crois qu'on peut compter quand même sur Didier Deschamps pour recadrer quand même...
Ah, non, mais bien entendu. Mais c'est une question éventuelle.
Christian, vous parlez du recadrage de Didier Deschamps. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi Mbappé est venu en conférence de presse avant ce match contre l'Hongrie.
À la demande de Didier Deschamps.
Oui, mais enfin, pour moi, c'est pas très logique. On sent quand même que Mbappé a tellement tapé pour venir parler par rapport à l'histoire de Giroud, etc., que Deschamps a lâché. Oui, mais
et parce que
mais ça a remis de l'huile sur le feu de cette histoire.
Pour moi, l'explication, c'est qu'il fallait que ça sorte pour Mbappé. Oui,
mais après l'Hongrie.
Ah ouais, mais je pense qu'il a senti que Mbappé, il fallait que ça sorte avant. Quoi.
Moi, je trouve que c'était pas la bonne solution. Je rejoins Florian.
Après l'Hongrie, il y aura donc le Portugal. Ce sera mercredi prochain. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Là, je vous pose la question. C'est une question ouverte. Qu'est-ce qu'il faut changer à la lecture et à l'aune de ce qu'on a vu cet après-midi et à l'issue du débat qu'on a eu depuis 18h30?
Pavard, Rabiot. Pour moi, Pavard, Rabiot.
Pavard, Koundé ou
Koundé, Dubois. Koundé a pris le pas sur Dubois, visiblement. Dans l'esprit de Deschamps.
Il est en tribune.
Après,
là.
Après, petit risque, Koundé, quand même.
Moi, je vous trouve très sévère avec Léo Dubois. Je pense que sur ce genre de match, il faut être sérieux et défendre. Il peut bien le faire.
Et moi, je vais plus loin.
Et il y a de l'expérience.
Je vous trouve parfois sévère avec Pavard.
Ah oui, mais sur le match là quand
vous
même.
Vous mettez combien sur un match comme ça? Deux.
Mais qui est dans son couloir pour venir lui donner un coup de main?
Normalement, c'est
qui? Non, mais il ne doit pas y aller.
Qui est dans son couloir? Non, mais.
On parle d'action de
but
là.
C'est pour défendre.
Globalement. Qui doit venir lui donner un coup de main? Qui?
Normalement, c'est Griezmann qui joue à droite.
C'est Griezmann à droite.
Je l'ai pas vu beaucoup.
Le centre de Renato Sanchez repris.
Ouais.
Par les Portugais, ça part encore.
Dans les replis défensifs hauts de Griezmann, il n'est pas avec Pavard. Moi, je vous trouve un peu sévère.
Sur ce match-là,
Sur ce match-là,
je suis d'accord que
on tape très facilement sur Pavard. Alors que globalement, sur ces matchs en sélection, bon, il est quand même pas.
Ouais, enfin, défensivement, il est quand même toujours un peu limité.
Ouais, toujours limite
sur dès qu'il prend match, quelqu'un qui va un peu vite dans son couloir, il est battu.
Quand tu regardes le réservoir des Bleus à ce poste, c'est le meilleur. Mais sur ce match-là, en revanche, sur ce match-là, je pense quand même qu'effectivement, il y a eu des signes d'inquiétude assez flagrants.
Au milieu, Tolisso à la place de Rabiot, pour moi.
Tolisso, pour moi.
Oui, Tolisso aussi. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il est revenu tard dans la saison, mais il est bien revenu. Donc, c'est en plus c'est un joueur avec beaucoup d'activité, très agressif sur un match comme ça. Je pense qu'il va être capital.
Rabiot, il a été bon contre les Allemands dans un bon collectif, mais aujourd'hui, il est quand même passé à côté de son match. Je pense qu'on peut changer.
Bon, et Benzema sur le banc des remplaçants ?
Non,
parce que là, il tue comme DJ.
Christian, là, vous le renvoyez chez lui.
Il vous pose des questions.
Ah oui,
non, il doit commencer. Nous, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de pouvoir le sortir plus tôt. Mais il doit commencer ou tu le fracasses là.
Ah oui. Non, mais finalement, ça fait que deux changements. Hein.
Bah oui, mais d'un autre côté.
D'autre côté, le reste, tu vas changer quoi ? Ta défense centrale, elle fonctionne.
Mais David, il est important ce match. Il devient important le match contre le Portugal.
Très important, ouais.
Alors, tu dois jouer.
T'es pas l'abri qu'ils mettent le même 11.
Parlez-moi des trois premières équipes qualifiées quand même. L'Italie vous a séduite. La Belgique, l'Italie, Gilles Verdez.
Magnificent, se trouve aboutissement collectif. Pas de star, mais un projet de jeu. Une rapidité sur les côtés, un milieu de terrain fantastique. Moi, j'ai été ébloui par les deux premiers matchs de l'Italie.
Ouais, et c'est surtout ça qui est intéressant. C'est qu'à la limite, ils peuvent même. D'ailleurs, ils ont perdu leur défenseur central.
Chiellini,
ils en ont mis un autre, ça sert bien de fonctionner. Ça, c'est quand tu joues pas sur 2-3 stars. Si tu joues dans un collectif, et j'ai trouvé cette équipe italienne, effectivement, et je mettrais bien une petite pièce au final sur cette équipe italienne.
Le terme de collectif, à mon avis, porte très bien parce que c'est vrai que, bon, il y a pas de stars, notamment dans le rayon offensif, et on sent qu'il y a une cohésion.
4 minutes de temps additionnel, 4-2 pour les Allemands face aux Portugais. Ouais. Vincent nous appelle pour la validation du résultat final.
Il y a une cohésion dans cette équipe italienne.
C'est difficile pour les Allemands. On voit que.
Ouais, mais il y a quand même 2 buts d'écart. Ça gère.
Ils ont beaucoup donné les Allemands, mais ça gère.
On termine les débats.
Il y a une cohésion dans cette équipe d'Italie qui, moi, me rappelle l'équipe d'Italie de 2006 où ils avaient eu, on se rappelle, un contexte extrêmement difficile puisqu'ils avaient été impactés par des scandales en Italie et ils s'étaient retrouvés autour de l'équipe nationale. Et là, bon, il y a eu la crise sanitaire qui a durement touché l'Italie. Il y a eu également l'absence à la Coupe du Monde 2018 qui les a fortement marqués. J'ai l'impression vraiment qu'ils sont, c'est vraiment ça se dégage vraiment.
Et
c'est
quel entraîneur
extrêmement.
Ouais.
Ils sont portés par quelque chose, un projet collectif.
Et qui coach, c'est-à-dire qui est au bord du terrain et tu sens qu'il y a une grosse présence.
Et surtout qui a fait des choix de joueurs, il a pris que des joueurs qui savent jouer au football. Mais vraiment, c'est une équipe qui joue au football. Ah, c'est que des techniciens.
C'est flagrant,
Et ça, franchement, ça
sans
fait
Verratti.
La différence.
Et sous sa direction, une petite quarantaine de matchs sans défaut.
Ouais.
La Belgique, on profite de la présence de Stéphane Coach.
On s'est déjà dit 10 fois l'histoire. Non, je ne vais pas être trop long. Juste, je pense tout le temps qu'on a des problèmes défensifs. Je pense que cette défense à 3, nous sommes très lents. Il faut pouvoir le dire.
Vous en rendre compte déjà.
En Belgique, on ne s'en rend pas compte. Moi, je me rends bien compte que Denayer, il n'avance pas.
Ah,
Vertonghen, il est cramé. Vermaelen, il n'avance plus. Et Dieu sait, et Meunier, qui parle beaucoup, mais que dans ce système à trois derrière, quand il prend le couloir, on est souvent en difficulté.
Il se délecte de vos autocritiques.
Non, mais nous sommes tellement forts.
On a
vu les mêmes matchs. Kevin De Bruyne, tout ça, c'est bien gentil. Mais même chose, là, je vais être autocritique. Si les Danois font 2-0 à la mi-temps, on ne parle plus. Hein. On ne parle plus. Et Kevin De Bruyne peut rentrer, on est à la ramasse. Hein. Alors, avec des si, Christian n'aime pas ça.
Les Pays-Bas.
Oui.
Qualifié également.
Oui, alors avec quelques insuffisances quand même. Je trouve que défensivement, pareil, c'est un peu compliqué en défense centrale, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment.
Devant, ça va vite.
Ouais. Là, pour le coup, il y a du talent.
Beaucoup.
On parlait d'Italie, on disait que c'était un vrai collectif et qu'il n'y avait pas des joueurs qui.
Fine signé, ça, c'est quand même des sacrés joueurs.
Oui, mais je trouve que dans cette équipe des Pays-Bas, il y a quand même 2-3 joueurs où tu t'es dit, ça.
Ouais, et Paris a fait une bonne affaire avec Wijnaldum.
C'est quand même en difficulté ou qui vont devoir corriger le tir assez rapidement, l'Espagne dès ce soir contre la Pologne.
Ouais. Énorme. Match.
Là, il y a le feu.
Il va falloir qu'il mette un but.
Ah là, oui.
C'est chaud. Et les Polonais, c'est pas facile à jouer.
L'Angleterre qui nous a vraiment déçus.
Bon, hier, c'était vraiment. Bon, après, c'est des matchs de guerriers. C'est des matchs de pubs, hein.
C'est Brevard.
L'Angleterre nous ravit avant chaque compétition.
Et on est déçus.
Avec des stars fantastiques. Et nous déçoit à chaque fois. Ils sont toujours bouillis. Ouais. Leurs saisons sont tellement longues.
Qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis, la première ligue, c'est avec les joueurs étrangers que ça se joue. C'est pas avec les Anglais.
Ah, quand même. Non, quand même. Vous exagérez un peu. Là, ils ont beaucoup de stars.
Non, mais il faut quand même rappeler à nos auditeurs que. L'Angleterre, c'est une victoire en 66 et c'est tout. On est national, on est de la sélection.
Oui.
Donc c'est quand même, ça dit quand même quelque chose.
Et à l'Euro, jamais de finale.
Allez, on tourne une page de publicité, on solde le résultat et la probable victoire des Allemands face au Portugal. Et puis deux, trois petits sujets comme ça pour terminer en sourire. Et si on avait parlé de Platini, si on avait parlé des Jeux Olympiques, si on avait parlé de Bordeaux, qu'est-ce que vous auriez répondu? À tout de suite.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
Allez, un dernier tour de table avec ici fini. À Paris les débats. Et ouais, on arrive, Vincent, on arrive. Et avec Vincent Serrano à Munich pour la victoire allemande.
Eh oui, Christian, l'Allemagne se ressaisit après sa défaite contre les Bleus. Et de quelle manière? Le match le plus prolifique en termes de buts depuis le début de la compétition. Joachim Löw l'avait dit à ses joueurs avant la rencontre. Tout pour l'attaque. Message reçu 5 sur 5 pour les Allemands qui ont cadré 7 de leurs 13 frappes. Surpris. C'était trop fort, trop maîtrisé pour les Portugais qui ont créé la surprise en marquant les premiers à la 15e minute de jeu. Qui ont même réussi à faire douter les Allemands, mais pas longtemps. Pas longtemps. Deux buts contre leur camp de Ruben Dias et Guerrero donnent l'avantage à la Mannschaft qui ne rate pas le coche. Avertz à la 51e, Gossens à la 60e mettent un coup trop dur sur la tête de la CDSAO qui n'a pas vraiment réussi à reprendre ses esprits, à remettre le pied sur le ballon. Mm-hmm. Et vous l'entendez derrière moi, ce public allemand est conquis par le visage qu'a présenté l'Allemagne dans ce match face au Portugal.
Merci Vincent.
4-2 pour les Allemands.
Débrief, commentaire, réaction à partir de 20h dans RTL Foot. Au classement général, la France leader 4 points, le Portugal et l'Allemagne à égalité 3 points et la Hongrie, lanterne rouge avec un seul point. Deux, trois petits sujets, on a 2-3 minutes. Si on n'avait pas eu l'Euro, on aurait parlé de l'équipe de France olympique qui va peut-être déclarer forfait.
Alors, pas de joueur. Moi, je veux bien jouer.
Ça, c'est votre sujet depuis le début. Hein. Vous l'aviez annoncé il y a des semaines. Hein.
En exclusivité.
Ah, je vous ai suivi là-dessus, je le sais.
Et les clubs de Ligue 1 ne veulent pas lâcher leurs internationaux pour disputer les Jeux olympiques. Ils en ont le droit car ça n'entre pas dans le cadre d'une case FIFA. Question posée par nos confrères de beIN Sport cet après-midi à Noël Le Graët. Est-ce que vous allez déclarer forfait? Même pas en rêve, a répondu le président de la Fédération française de football.
Non, mais c'est pas un problème spécifiquement français parce qu'on voit qu'il y a c'est un petit peu pareil cette compétition, c'est partout pareil dans le monde, c'est que cette compétition bon, elle est en même temps importante pour les joueurs, mais c'est une compétition en plus qui est pesante quelque part pour les clubs parce que dans le calendrier, elle s'insère à un mauvais moment.
Tout le monde s'en fout.
Ça veut dire non.
Donnez-moi les équipes.
Arrête de dire on s'en fout puisque t'as Neymar, Mbappé, Marquinhos par exemple qui veulent la faire cette compétition. Donc eux déjà ils s'en foutent. Mais les joueurs s'en foutent pas. Tu vois bien, regarde quand tu Neymar et Marquinhos quand ils l'ont gagné à domicile. C'était très fort. Griezmann a déclaré cette semaine « Mon rêve, c'est de jouer les JO à Paris 2024 ».
C'est absurde. C'est absurde que ce ne soit pas des dates sanctifiées avec libération automatique des joueurs par leur club. C'est les Jeux Olympiques, quoi.
Memphis Depay, c'est officiel à signer pour Barcelone.
Ouais. C'est avec ça qu'ils vont être champions?
Non, ça veut.
Si, non, mais c'est bien pour lui, c'est bien pour eux.
Il retrouve que mal.
C'est surtout bien pour lui.
Alors, ce qu'on peut quand même noter, c'est que ça fait des années qu'il nous explique que son talent est tellement immense que Lyon était un petit club pour lui et qu'il fallait qu'il signe enfin dans un grand club. Eh bien, allons-y, on va voir si effectivement il a ce talent si grand que ça.
Et pour il est pas mal en ce moment avec son équipe nationale.
C'est un bon joueur, mais.
Une seule saison, 2022-2023.
Ouais, mais on va voir.
Une seule saison?
C'est ce que je crois.
Non, c'est pas possible. Un joueur libre de tout contrat, il peut pas signer une seule saison.
Ça va
vérifier.
Il faut voir déjà s'il est titulaire hein, parce que quand même ils ont recruté Agüero, Messi va sans doute rester, il y a Griezmann.
Bon, Michel Platini, le patron du syndicat des joueurs.
Un peu triste pour Platini, je trouve que c'est un peu
syndicat international quand même.
Ouais, mais c'est un peu cheap quoi comme fonction.
C'est pas fait.
Bon alors,
c'est
encore plus cheap. Non mais je veux dire, je trouve qu'il mérite mieux quoi. C'est Platini, il a envie de reprendre pied dans le foot. Il a peu d'opportunités. Finalement, il y a peu de gens qui ont envie qu'il revienne dans le foot.
Ouais, mais je trouve que c'est bien parce que ce syndicat, finalement, ce serait bien qu'il ait un peu plus de poids par rapport à l'effet de la FIFA. Ce serait bien, mais peut-être qu'avec la présence de Platini, il va un peu en gagner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que les joueurs, ils sont trop payés, mais que leurs droits sont pas vraiment fondamentalement respectés et Platini peut faire du bien.
Ouais, leurs droits et leurs idées également, parce qu'on voit qu'au niveau de l'évolution du jeu, il y a parfois des choses lunaires qui se passent au niveau du board. Que quelqu'un avec autant de poids médiatique que Michel Platini porter cette voix et avec l'intelligence qu'on lui connaît, le sens du jeu, je trouve ça très bien.
Et puis il nous reste 20 secondes. Mais attention, il faut surveiller cette actualité-là. Semaine prochaine, les Girondins de Bordeaux peuvent descendre.
Ah bah c'est bien parti. Mieux vaut le dépôt de bilan que M. Lopez.
Ouais. Pas mieux. Ouais. Pas mieux que Gilles.
Pas sûr que les supporters soient d'accord.
Merci les amis.
C'est
merci
triste pour les supporters
pour ce spécial Euro débriefing. On refait le match. Vous remettrez ça dans l'ordre. Il n'y a pas de souci. Merci Gilles Verdez. Merci David Ayello. Merci Stéphane Poès. Merci Florian Gazan. Florian Gazan. Il viendra s'installer pour les trois derniers samedis qu'on fait le match à la présentation.
J'ai l'impression là.
On va faire foutre la
Benzema.
Benzema Jonathan ira marquer des buts.
Bienvenue en tous les cas.
Merci Christian.
À bientôt en tous les cas, les amis. Merci à vous tous de votre fidélité. Après 20h, après les infos, RTL Foot continue et jusqu'à 23h. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Merci également à Damien Béchaud pour la réalisation. Ciao, ciao.